Salut les joueurs et salut les joueuses. Nous sommes le 27 août 2014 et vous écoutez le 58e épisode de Proxy Jeux.
Je suis Jérémy.
Et je suis Olivier.
Et nous allons vous parler de jeux de société.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société.
Et merci à la boutique Philibert qui nous aide à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société.
Et merci à tous nos patrons de soutenir ce podcast.
Et c'est là que je dégaine la liste des patrons.
Dégaine.
Je dégaine, c'est parti.
Alors merci à Arnaud Van Meuswinkel,
Antoine Strat, à Boom, à Iso Bretnik, à Siol, à Loïc Lacombe, à Jean, à Nicolas Lefebvre.
Bleu, Grebleu, Emna Bleu.
Tu vas me perturber. Oh. À Cyril, Guillaume Arche, à Alès, Gaëtan Perrin, Peggy Chesney, Ludurny, Alexis Godefroy, Vincent Vido, Vincent Toucourt, Ludy Boquet, Bab, Ken Evan, Vincent, encore un, Olivier Darchis, Guy Clette, Cyril Morin, Merlin Duménil, Guillaume Aubert, un Toulousain, Benjamin, Johan Bonneau, Fendowell, Clément Dumas, Mickaël Le Bourris, El Pouillou, Geoffroy, Lacariatre, et aussi nos donateurs PayPal, donc Romaric Briand, Yannibus, Philippe Attali et Emmanuel Lange.
Alors merci à tous ceux-là. On va peut-être changer un petit peu la formule parce que
vous ça commence à être un petit peu long
nombreux.
Là.
Je vais essayer de raccourcir ça, de couper les blancs pour que ça soit un petit peu plus court. On va peut-être vous mettre ailleurs. Enfin, de toute façon, merci beaucoup à ceux qui utilisent le Patreon. Merci beaucoup à ceux qui nous envoient des dons. Ça peut être des dons par le PayPal ou des dons en bière. Merci Birout pour la bière. On en a plus. Parce que c'est en fait c'est Chanouillette qui a tout bu. C'est Chanouillette et je balance. C'est Chanouillette et Eve qui ont tout bu.
Elles on sont défoncé les bouteilles. C'est fou. D'habitude on boit à peine une bouteille. Nous là, il y en avait 8.
Alors comment ça va, Jérémy?
Moi bah ça va bien. Tu vois, tout frais après 2 mois de vacances.
Content.
Après 2 mois de vacances?
Oui.
Ouais, reprendre aussi, c'est sympa.
Et puis,
en fait.
Et puis surtout, la sortie de ton jeu?
La sortie de Zombie 15 dans une semaine. Tic-tac, tic-tac. Enfin, il y a eu une pré-sortie en juillet, mais c'était quelques boîtes et la vraie sortie, c'est septembre.
Donc, Zombie 15, on en parlera. On vous en parlera dans le prochain épisode. Je ferai un dossier sur les zombies. Vous voyez, je n'aime pas les jeux de zombies, mais je ferai un jeu. Je vais, moi, parler de Zombie 15, de ce que j'en pense. Et puis, j'en profiterai pour vous parler des autres jeux de zombies, au moins les plus intéressants. Et on peut pas parler de jeux de zombies en parlant que de Zombie 15. On parlera aussi de Zombicide, et, entre autres. La nouvelle saison, tu veux la présenter, Jérémy?
Oui, on peut.
Alors, vas-y.
Alors, on va changer, comme chaque nouvelle saison, oui, une nouvelle formule.
Oui, mais c'est pas un changement mineur. C'est changement majeur.
Ouais.
Alors, si
non alors, si,
d'accord,
si.
Okay.
Alors, bah, on va continuer à faire notre podcast comme voilà, avec nos digressions. On dit qu'on n'en fera plus, mais on en fera.
Ouais.
Globalement, le contenu, est-ce qu'il va beaucoup changer le contenu? On garde à peu près la formule de la saison d'avant.
C'est ça.
Donc, de l'actu, des reviews, des invités, le do-it-yourself, enfin, toutes les chroniques, jeux de rôle, etc. J'espère qu'on aura encore les chroniques de Ken Evan, de Yannibus, de Fendowell, de Dédé Chute, et j'en passe.
Et puis d'autres.
Et tous les autres encore qui n'ont pas encore pris le micro et qui vont arriver, qui vont venir. Donc tout ça, ça va rester. Ce qu'on va changer, c'est le format, en fait. Comme on disait, on était un podcast à enregistrement mensuel et à parution hebdomadaire. On va garder la formule.
C'est ça.
Le but, c'est d'essayer de faire, au lieu de faire 6 heures de podcast avec des phases qui durent 2 heures, on va plutôt essayer de faire 4 faces, ou 4, je sais pas, 4 épisodes, mini-épisodes de 1 heure.
Ce sera pas des faces. Ce sera vraiment 4 épisodes.
On va appeler ça des épisodes, mais on continuera à les enregistrer quand même, l'air de rien, en une fois. Donc 4 épisodes d'une heure, on veut vraiment pas dépasser les 1 heure parce que alors il y en a qui vont hurler, mais sauf qu'on nous retrouve toutes les semaines parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ne nous écoutent plus forcément parce que ça dure 1 heure.
Voilà, donc on va essayer d'être plus court, plus efficace, vous donner des choses, enfin vous parler de choses qu'on aura peut-être un peu plus eu le temps de préparer, et puis avec des choses, alors que ce soit de l'actu ou que ce soit des présentations de jeux qui soient un peu plus intéressantes. On va essayer de mettre un peu plus de valeur ajoutée dans le podcast, même si c'est un gros mot en fait.
Et donc, puis ouais. Et puis on veut sortir un petit truc à côté en plus.
Attends.
Ah pardon, oulala.
Attends, donc voilà, donc c'est première semaine, on enregistre en général le dernier jeudi de chaque mois ou dans ces eaux-là. La première semaine, on va retrouver l'actu. La deuxième semaine, on va retrouver l'invité, parce qu'on espère avoir des invités, on a quelques noms là, il faut qu'on arrive à les avoir. Si vous avez des gens que vous voulez avoir à notre micro, si vous connaissez quelqu'un qui est très intéressant et qui n'est pas assez médiatisé, n'hésitez pas à nous le proposer, on essaiera de l'avoir. Semaine 3, Do It Yourself, jeux de rôle et les chroniques d'Iso. C'est pas un fourre-tout, c'est plutôt un épisode de chronique, bien qu'il y en aura dans les autres épisodes. Et puis la quatrième semaine, des reviews de jeux société sur table, sur écran, du jeu de rôle, tout jeu confondu. On va arrêter, enfin moi j'aimerais bien arrêter le distinguo entre jeu sur écran et jeu sur table. Puis on vous rajoutera aussi du jeu de rôle, j'espère. Il y aura la chronique de Siol de toute façon. Et puis voilà.
Et puis,
tu as commencé à l'annoncer.
Oui, on voulait, parce qu'en fait, au départ, quand on a fait Proxy Jeux, il y a 3 ans et demi, quand on a commencé
l'aventure,
on avait dit, on va s'adresser à tout public qui connaissent les jeux ou pas. Et puis,
c'est impossible.
Avec le temps, on s'aperçoit qu'on a quand même notre jargon, etc. Je pense que certains qui essaient de nous écouter se disent, oulala, il faut s'accrocher.
Ouais, et puis on a essayé, dans les premiers épisodes. Alors voilà, on va à Essen. Alors Essen, c'est en Allemagne, c'est le plus grand salon du monde de jeux de société. Et en fait, c'est imbitable pour les gens qui essaient de nous écouter et qui connaissent un peu de quoi on parle.
Voilà, et donc du coup, mais on veut quand même retourner un petit peu renouer avec ce côté découvert du jeu de société. Donc on veut faire une petite rubrique qui durera, un petit épisode qui durera une petite demi-heure. Qui sera, peut-être qu'on mettra aussi dans le flux proxy jeu, mais normalement on va un flux à part.
Oui, oui.
On fera un flux à part. Bon, d'ailleurs, il faut qu'on définisse...
qu'on lui donne un nom.
Un nom. Ce sera ce soir en direct.
Alors ce sera pas... Non, ce sera pas...
Je pense à Jeux pour tous, un truc comme ça, on verra.
Je sais pas. Non, c'est le jeu de société expliqué à ta grand-mère, mais pas comme ça, quoi.
Voilà. Et donc, le format, ça sera une demi-heure max cette fois-ci, et on parlera en gros d'un concept, d'une mécanique, pas plus. Le but étant vraiment d'aider les gens qui ne connaissent pas trop les jeux à découvrir.
Faire du prosélytisme.
Voilà.
Voilà, donc ça, c'est dans les semaines et les mois à venir. Dans ce numéro est un peu particulier parce que on va aller voir la semaine prochaine notre sponsor Philibert. On va aller enregistrer un petit bout du podcast ensemble. Donc on va ce soir enregistrer la partie un peu à la maison. Et puis on intégrera l'interview et puis les échanges qu'on aura eu avec la boutique Philibert. Merci pour vos retours, vous avez été nombreux pendant cet été à laisser un petit commentaire sur le site. Je n'ai pas regardé les commentaires iTunes, donc si tu peux en profiter.
Je vais retourner voir, mais il n'y avait rien de nouveau.
Oh là là, mais si, il y en avait au moins.
Si, il y en avait un, mais il y a des chutes, ce n'est pas là, c'est bon, on pourra le dire.
Donc, Geoffroy, lui, il a mis un long commentaire sur l'article concernant le crossover qu'on a fait avec le blog La Cellule. C'est intéressant parce que il a commenté avec le minutage. Donc, vous pouvez réécouter cet échange qu'on a avec Romaric Briand du blog La Cellule en compagnie de Anne-Alexis. Lui, il a un petit peu... justement, je parlais de la valeur ajoutée. Il a mis un peu de valeur ajoutée dans les commentaires du site. Mathieu nous demande pourquoi nous n'avons pas parlé du site Mademoiselle qui publie régulièrement des articles de jeux de société. Alors pour préparer, je suis allé voir et j'ai pas trouvé la section jeux de société. J'ai pas trouvé de jeux de société en fait. J'ai l'impression que c'est un blog mode féminin et que voilà. C'est
de temps en temps, il parle un peu de jeux, mais. Voilà.
Donc on peut parler effectivement de la sélection du dimanche, on devra en parler justement dans notre nouveau podcast, celui consacré celui qui est fait pour le prosélytisme.
Je pense que Martin le fait déjà bien sur son site.
Oui, mais faudra renvoyer là-bas quand même,
ah, oui.
À un moment donné. Mais pas Mademoiselle, je ne suis pas public. Je sais pas ce que t'en penses toi, Jeremy.
Alors on me dit dans la chatroom qu'elle a fait quelques articles... mais elle parle sérieusement genre Catala, c'est pas le Monopoly. Qu'est-ce qu'il dit, Alexis? Bon, j'en sais rien. Moi, je pense que... De quoi? À propos de Mademoiselle?
Oui.
Je
ne se prononce pas.
Bah non, je suis pas allé voir le site, je connais pas les articles qui sont écrits dessus. En fait, petit à petit, la presse généraliste, je sais pas comment le magazine Mademoiselle est presse généraliste, mais il commence à faire des articles à propos, on l'a vu avec Anne, donc c'est très bien. Mais de là à en parler dans le dossier où on était vraiment avec des personnes...
Oui,
vraiment
c'était
dans le
milieu, cadre,
etc. On était, on,
tout
on,
à
je
fait.
Pense qu'on est un petit peu en dehors.
C'était dans le cadre de l'épisode rose, effectivement, qui a eu ce commentaire. Et effectivement, puis en plus, moi, ça, voilà, on connaissait pas. dans les commentaires du numéro 56 B, si vous vous souvenez bien, j'ai posé une question qui a ouvert un petit peu à la fin de l'épisode rose. C'était ok, le monde du jeu de société, bah, sexiste, mais qu'en est-il de son ouverture sur d'autres catégories socio-professionnelles? Tu sais, bah, voilà, ça le fait rigoler. Et on a eu en fait une réaction de 22. Et c'est très intéressant aller voir, parce que je dis, ben voilà, pour moi, le type, le profil type du joueur, c'est un homme, 25-35, CSP+, etc., etc. Et en fait, il dit, ben raté, moi je suis noir. Enfin, il dit pas si il est métis ou noir, mais il est pas asiatique. Et il dit qu'il y avait beaucoup de problèmes pour s'intégrer au monde du jeu de société. Il dit que, n'étant pas blanc, je remarque que les jeux de société sont plutôt racistes, à l'inverse du jeu vidéo, pour le coup, sûrement dû à l'alignement du online. Je dis raciste, ça part un peu dur, mais c'est comme le sexisme. C'est pas forcément conscient ni actif, c'est naturel. Et puis il dit, je remarque effectivement, il y a peu de gens de couleur. À la limite, il y a des Asiatiques. D'ailleurs, le monde du jeu de société est plus raciste à mes yeux que la société en général, c'est dire. Et pourtant, c'est ma passion. Je vous laisse, je vous renvoie vers le site.
Il est dans la chatroom.
Bah voilà, donc je voulais en parler. Son commentaire est exhaustif. Il est très intéressant. Et je pense que voilà, on a fermé une porte avec l'épisode rose. J'étais à la boutique Robin des Jeux mardi soir. Je vais en reparler tout à l'heure. Il y a presque une parité. C'est-à-dire, je suis allé aussi à la Triche, à Lyon, un soir où, enfin, tu vois, c'était un soir de semaine. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Enfin, c'était presque incroyable. Et il y avait Iso qui était là. Et il en revenait pas. Donc, d'abord, à lieu où on peut jouer comme ça.
Japon.
Et en plus, avec plein de femmes. Tu te dis, oh!
Ah, mais c'est ce que je disais. Maintenant, je crois qu'il y a une vraie parité dans tous les lieux ludiques, les clubs, les assos, les machins comme ça. Oui, c'est clair.
Et puis, Peggy a remis un peu une pièce en disant qu'il n'y avait que 1200 ludothèques en France. Bon, avec, on ne va pas faire de politique, mais c'est pas prêt de s'arranger. Et puis, je pense que l'ouverture aux jeux de société, il faut la faire autrement. Parce que voilà. Bref, donc je vous invite vraiment à faire un tour sur le site et lire les commentaires, ils sont très intéressants. Ashram qui nous dit, pour compléter les infos, iOS, Playdeck et Stoneblade Entertainment se sont mis d'accord pour continuer à travailler sur Ascension, Rise of the Vigil. Et
oui.
On dit Rise of the Vigil est sorti, Blood Bowl aussi, mais on va en parler tout à l'heure. Et d'ailleurs, peut-être que Star Realms va bientôt arriver, ça, moi je vais en parler.
Star Realms, oui, bah, c'était à Gen Con.
Star Realms.
Et ouais, et l'histoire d'Ascension, bah, on en reparlera effectivement. C'était normalement que Playdeck devait arrêter le développement à la fin de l'année.
Mmh. Petit mot des ludopathes nantais. Bonjour les ludopathes nantais. Parce que dans Proxy Jeux, il y a proximité. Et puis une petite pensée pour Yannibus qui va être papa. Donc bah voilà, big up. R. Kelleg, lui, il nous dit qu'il manque tout de même un petit détour pour les USA, pour le jeu de rôle. Le 19 août, le guide du joueur de la 5e édition de Donjons & Dragons est sorti et s'est retrouvé best-seller numéro 1 des ventes sur Amazon. Youhou!
Forcément. Et avec le lancement qu'ils ont fait à la Gen Con, on en a largement parlé. Nous, on n'en a pas parlé dans le podcast parce que c'était en août.
Et puis qu'en fait, pour parler de Donjons & Dragons 5, il faut avoir tâté de Donjons & Dragons 4 et de Donjons & Dragons 3. Donc,
et 3.5.
Ou 3.5, ouais. Bref, donc j'en ai parlé à Seul mardi et il m'a dit « Oula, non, non ».
Non, ça reste, ouais, je crois que le jeu a changé, il est devenu essentiellement mécanique.
Plus, non, ouais,
ils ont expliqué tous les systèmes de combat, etc., alors qu'en fait, quand tu aimes les jeux de rôle, tu...
Voilà, c'est ça, il est passé par une étape tactique et ils reviennent peut-être un truc plus...
Je sais pas. Le côté tactique, bonjour.
Donc on peut pas en parler, donc on en parlera pas. il dit aussi qu'aux États-Unis, le métier d'illustrateur de jeux de rôle existe. Au moins pour quelques élus, moi ça forcément. Hein. Donc il parle de Vincent Dutray, qui travaille pas mal avec Pezzo et Brom et Elmore. Et ben je ne savais pas.
Ouais, mais Vincent Dutray il habite d'ailleurs en Asie, si je me trompe pas.
C'est plus facile pour,
ouais, et,
pour illustrer des jeux
des jeux américains et des jeux européens. Et comme ça il est entre les deux, tu vois. Oui, bah après. Après, oui. Non, mais après, Vincent Dutray, je savais pas qu'il faisait beaucoup d'illustrations de jeux de rôle, mais.
Et puis, donc, Erkeleg nous renvoie sur BGG où il y a RPG Geek, qui offre le même genre de suivi, pour les jeux de rôle que pour les jeux de société. Et puis enfin, un petit coucou à Mathias et à Citia, qui nous écoutent en allant travailler sur leur vélo, pour Mathias, je crois. Ils sont venus nous faire un petit, me laisser un petit mot sur le billet du 37C. Merci également à Job 314, à Monsieur P et à Stéphane Anctil qui est très souvent dans les commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir sur le site. Et comme je viens de vous le montrer, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il y a plein de débats qui peuvent se lancer, plein de choses à dire. C'est encore une fois, je l'ai dit il y a très longtemps. C'est un des rares sites sur lesquels il n'y a pas de troll.
Chez nous ?
Oui. Oui. Parce que tu, en fait, je pense que c'est parce que tu commentes pas.
De quoi ? Je commente pas ?
Qu'il n'y a pas de troll.
Je rigole, je suis le seul à répondre aux commentaires.
Oh merde.
Mais effectivement, je troll pas trop. Je troll plus sur Twitter que dans les commentaires.
Non. Donc voilà. Parler de. Pardon ?
Non, j'ai un droit de. Enfin, je me réserve, tu vois.
Ouais, j'ai de la retenue.
J'ai de la retenue, voilà, c'est ça.
Donc, si vous aimez ce qu'on fait, parlez de nous à vos amis, dites-nous qu'on existe, faites-nous écouter. Si vous n'aimez pas ce qu'on fait, dites-le nous, utilisez Twitter, utilisez Facebook, utilisez les commentaires du site. N'hésitez pas à nous dire, vous n'avez pas telle ou telle rubrique, vous n'êtes pas d'accord sur ce qu'on dit, il n'y a pas de souci.
Oui, on est prêt à accepter nos erreurs. Du coup, j'ai les commentaires iTunes.
Ah, il y en a
deux commentaires iTunes.
Ah, bravo.
Énorme. Je pense qu'on devrait faire un concours où on tirera au sort un des gens qui nous a noté sur iTunes. C'est dégueulasse pour les gens qui ont Android, mais tant pis pour eux. Alors.
Non, tu peux toujours te connecter sur l'iTunes de ta grand-mère et puis nous noter.
Ah ouais, bien sûr, ma grand-mère a un iPad. Alors.
Bah quoi ?
Normal. Donc, les commentaires, il y en avait deux. Alors, c'est SF2605. Qui nous a mis que 4 étoiles, je sais pas si je vais.
C'est à nos amis, c'est ça ?
Ben non, c'est nos amis qui nous notent mal, ouais.
Enfin, mal.
Bah, 4 étoiles, c'est mal. Non, c'est normal aussi, c'est pas rien dit qu'on accepte des critiques, mais vraiment. Qui dit que, voilà, qu'il apprécie beaucoup notre podcast, il a découvert aussi celui de la cellule en même temps.
Très bien.
Voilà, il dit que tout est sympa et son seul bémol, c'est qu'il n'accroche pas à la rubrique et le style ado sur le retour de Dédé Schutz. Aïe, aïe, aïe.
Ah, on aime.
Désolé, Dédé. Nous, on aime bien, en tout cas, donc on continue.
Et puis, ça dure 3 minutes, donc voilà.
Ouais, voilà.
Et jusqu'à présent, c'était chapitré, donc il fallait faire un avance rapide.
Et puis, il faut retourner voir les anciens aussi. Il y en a des très très bons avec le deck building, par exemple. Et puis, Loucha74, qui nous a mis 5 étoiles, très très bien, et qui dit « J'ai découvert ce podcast à partir du numéro 54, et depuis, j'ai rattrapé 90% de mon retard. » Donc je pense que Loucha fait partie des rares personnes à avoir écouté quasiment la saison 1 de Proxy Jeux. Rares sont ceux, je pense, qui... Enfin, ne vous n'allez pas jusque-là.
Non, il faut pas.
Une fois de jour, j'ai réessayé, j'ai dit « Ouh là là, c'est mou quand même. »
Enfin, au moins pour rigoler, quoi, pour vous dire que dans la vie, on peut évoluer.
Voilà.
Heureusement d'ailleurs, sinon on n'aurait pas de 3 ans et demi.
Peut-être tu vous dirais, refaites la saison 1, c'était mieux.
Ouais.
Parce qu'au moins, il durait 3 quarts d'heure les épisodes.
C'est ça. Moi, ça y est, j'ai planté mon Google Drive, c'est cool.
Tout va bien.
Ouais.
Voilà.
Est-ce qu'on passerait pas à l'actu après cette immense introduction ? Je tenais à parler des commentaires du site. Maintenant, on peut peut-être parler de l'actualité.
Alors attention, l'actualité.
Donc.
On change la formule de l'actualité.
Ouais, enfin là, on est dans un épisode charnière. On ne sait pas comment ça va faire avec
transition.
Avec Philibert. Peut-être qu'on va faire 3 heures avec Philibert. Alors on va pas réduire à 1 heure. Donc, à partir de maintenant, on a effectivement qu'une heure d'actu. Voyons voir si on va pouvoir y arriver.
Oh oui, parce qu'on n'a pas beaucoup d'actu en fait. C'était l'été.
Et puis cet été, comme tous les étés, le 14 juillet ont été décernés le Spiel des Jahres, la version familiale et la version experte.
Et donc la version, les jeux qui étaient en lice pour le Spiel, donc le jeu de l'année en Allemagne, c'était, il y avait Concept, qui a déjà eu l'As d'or en France et qui faisait figure de favori pour nous.
Oui.
Pour son côté, justement,
plutôt
multigénérationnel, puis en même temps tu peux jouer autant que tu veux, enfin familial, etc. Ouais. Puis son côté novateur, mais certains reprochent que ça n'est pas un jeu.
Ah,
c'est juste une devinette.
Oui, comme Time's Up, quoi.
Voilà. En face, il y avait. Oui, mais il n'a pas gagné de prix. En face, il y avait Splendor.
Splendor !
Splendor, qui est un jeu où les gens apprécient les mécanismes, mais on reproche que c'est un peu froid.
Bah ouais.
Et puis, il y avait Camelop, le jeu sorti de nulle part que personne connaissait avant sa nomination. Et qui, depuis, est même sorti en français, je crois, maintenant. Donc, j'ai d'ailleurs parlé aussi dans l'épisode où on annonçait les nominés. Et c'est Camelop qui a gagné. Camelop, c'est vrai, ceci dit qu'il a le format du jeu vraiment familial, simple. Règles simples, Mais total random, quoi.
Total random.
Bah, j'en ai parlé à l'époque. Enfin, genre, c'est très difficile parce que tu vas les dés qui vont sortir et qui vont décider quel chameau avance sont complètement.
C'est une sorte de jeu de loi, quoi.
C'est du pur hasard. C'est quand même mieux que le jeu de loi parce que t'as la notion de pari qui peut aller avec.
Bon,
mais ça rigole bien. Mais c'est, à mon avis, c'est pas un spiel qu'on gardera, qu'on se, dont on se rappellera beaucoup.
Ouais, alors qu'on jouera un habit encore longtemps.
Comme le spiel 2002, par exemple. Qui était
2002. Oh merde, je.
C'est Villa Paletti.
Ah oui, c'est pour ça qu'on. Ouais,
bah ouais, c'est. Ouais. C'est l'année de Puerto Rico et c'est Villa Paletti qui gagne. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, Camelop, je vous renvoie à l'épisode.
57.
Bon, à celui d'avant, je crois, 56.
56.
Où j'ai présenté Camelop. Et puis dans la catégorie jeux familiaux, donc il y avait Istanbul, donc jeu Rudy Gordon.
Non, Kennerspiel.
Pardon, Kennerspiel, qu'est-ce que j'ai dit moi ?
Familiaux.
Familiaux, oui, bah, oui.
Camelop, c'est familial.
Camelop, c'est familial. Non, c'est le Kennerspiel, le jeu des connaisseurs. Donc il y avait Istanbul, donc, qui est un jeu de Rudy Gordon qui est sorti récemment aussi. Qui est un jeu où on doit aller faire ses courses dans le souk, qui est un jeu de pure optimisation, sans beaucoup d'interaction. Un jeu parfait pour les Allemands.
Ça me fait chier en fait, les jeux comme ça maintenant. Ça, c'est, je vous donne mon avis
personnel. J'ai fait 3 parties, je l'ai revendu. Hein. Ouais. J'avais fait. Il y avait Concordia, donc un jeu qui se rapprocherait un petit peu de Lewis et Clark dans la notion. Il y a des cartes au centre de la table, il y a une sorte de marché des cartes. Il va y avoir de la gestion de ressources. Une interaction que moi je trouve assez limitée également, mais certains aiment beaucoup et y rejouent, puisque je rappelle que Concordia est sorti chez Istari en français. Et puis le dernier qui, pour moi. Était sans doute celui qui est le plus original, entre guillemets, c'était Maître Couturier.
Rococo.
Rococo en allemand. Que je trouvais. Comment on va dire, il a rien de novateur en fait en soi, mais il mélangeait plusieurs mécanismes. On retrouvait notamment de la majorité. Moi j'aime beaucoup parce que ça c'est synonyme de beaucoup d'interactions. Il y avait de la compétition sur de l'achat aussi, pareil, un petit peu, il y a de la pose d'ouvriers, il y avait, etc. Donc vraiment beaucoup d'interactions à différents niveaux du jeu, des choix difficiles. Et ben non, c'est pas lui qui a gagné, c'est Istanbul. C'est le jeu des autistes. Hein.
Non. Donc ils ont fait le choix du conservatisme et d'un prix vraiment marqué à l'allemande, quoi. Enfin.
Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bah, de toute façon, moi, je pense que ça correspond à ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant, il y a vraiment des marchés différents entre France et Allemagne. On a peut-être les mêmes jeux qui sortent, etc., mais c'est pas dans les sélections. C'est pas les mêmes qui sont primés. C'est pas les mêmes qui sont plébiscités par les joueurs non plus. Peut-être d'ailleurs pas les mêmes qui sont mis en avant non plus par les médias, entre guillemets, du jeu, podcast, site, etc. Donc, mais voilà donc les résultats.
Dans un tout autre ordre d'idées, Days of Wonder. Alors, deux chose sur Days of Wonder. D'abord, ils ont été rachetés par Asmodée. Aucune réaction de Jérémy. Ça tombe bien.
Pardon.
Non, il est en train de gérer la chatroom.
Ouais, je gère la chatroom.
Donc voilà, moi, je vais vous donner mon analyse. Elle vaut ce qu'elle vaut. Je pense que pour le rachat, en fait, alors ça s'appelle pas forcément un rachat, ça s'appelle une fusion, un rapprochement. Pour moi, j'appelle ça un rachat. Le rachat de Days of Wonder par Asmodée, ça marque un petit peu la mainmise d'Asmodée sur le territoire américain. Ça renforce encore, parce qu'ils étaient très présents à la Gen Con, la présence d'Asmodée sur... aux États-Unis. Et ça me rappelle en fait quand Philosophia a fusionné avec Z-Man. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont une renommée, ils ont déjà une assise importante, ils veulent en profiter. Donc je leur souhaite tout le bien possible. Je pense que de toute façon ils sont tellement gros que on va arriver bientôt à avoir du jeu de société, du vrai bon très bon jeu de société partout dans les grands magasins et c'est tout le mal que je nous souhaite.
Pour la petite histoire, Asmodée a approché Days of Wonder. Days of Wonder voulait pas nécessairement se vendre, mais c'est Asmodée qui les a approchés en janvier. Période où d'ailleurs Asmodée a été racheté par Eurasio. Donc
en janvier de cette année.
Ouais, janvier 2014. Et en parallèle, Asmodée en Allemagne va distribuer les jeux Queen Games. Donc Asmodée, l'air de rien, je sais pas si c'est suite au rachat ou pas, mais ça commence un petit peu partout à se mettre en place. Mmh. Un jour, ils seront sans doute rachetés par Hasbro, parce que de toute façon, Hasbro, c'est numéro un mondial. Et je pense que quand un concurrent monte trop, ils le prennent. Pour Days of Wonder, on verra ce que ça va donner. Ça fait quand même une news un peu bizarre. C'est vrai qu'ils ont une expertise excellente dans les jeux vidéo. Les portages iPad, ils sont beaux, mais parce qu'à la base, c'est des gens qui viennent du jeu vidéo. Et puis après, dans leur sélection de jeux, bah, ils ont quand même des sacrés. Je pense que les Aventuriers du Rail, ça continue à bien se vendre. Ils ont du Mémoire 44, ils ont quand même des jeux qui se vendent bien.
Ouais, mais je pense que
des
ça
licences
va devenir,
bien établies aux États-Unis.
Ça va devenir un studio.
C'est-à-dire, c'est bien un studio, ouais.
Donc en fin de compte, ils
oui.
conservent leur identité et puis se servent de.
Asmodée n'avait pas lancé de studio cette année. Il fallait bien qu'ils se débrouillent quelque part. Et chaque année, ils ont un studio. C'est un peu le jeu vidéo.
D'ailleurs, qui est devenu Studio Descartes?
Eh ben, je sais pas s'ils ont pour le site.
Et d'ailleurs, qui est devenu Marabunta?
Eh ben, c'est chaque fois, c'est des blagues.
Non, quoi, bah, des blagues?
Bah, Marabunta, c'est pareil. C'est chaque année, il y a un nouveau studio. Et... Par contre, j'espère que The Founder ne finira pas comme les autres
c'est
studios.
D'Asmodée. Non, il n'y a pas de réponse.
Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ah oui, alors qu'en plus, tout juste, Days of Wonder sort tout juste Five Tribes, le jeu de Bruno Catala.
Il l'a fait tout seul, celui-là?
Ah, studiodescartes.com, c'est un truc en japonais. Oui, oui, il l'a fait tout seul, je me trompe pas.
Oh merde. Ah si, si, si. Ok. Donc c'est un jeu de Bruno Catala, c'est seulement Bruno Catala. Il est partout en ce moment, mais Abyss, c'est une coédition. Qui fait beaucoup d'éditions. Donc, c'est pour ça que je posais ma question. Chez Days of Wonder, enfin, on devait parler de Days of Wonder de toute façon dans ce numéro, il y a beaucoup de choses qui sont proposées et du très bon. On vous parle de l'air pack pour Mémoire 44 depuis un temps immémorial. Depuis en fait qu'on fait le podcast, on dit il faut qu'ils fassent qu'ils remettent qu'ils reprintent Mémoire 44 et ils l'ont pas fait.
Non, pas mais, enfin le airpack, ouais, parce que tu leur avais même demandé à Essan et il t'avait dit on peut pas parce qu'il y a trop de rails qui ont changé.
Ouais.
Et en fait, on a appris dans l'été que, je crois que c'est Merlin qui m'a filé le tuyau, en fait, il est possible de l'acheter en PDF sur le site, sur la boutique de Days of Wonder.
C'est ça.
À 8 euros.
Ouais.
Donc voilà, Olivier, maintenant tu peux. Bon, après, faut imprimer tes cartes et tout, enfin, faut imprimer tes trucs, mais c'est pas mal comme formule, je trouve. Et c'est pour ceux qui voudraient le carnet de campagne, volume 1. C'est pareil, son carnet de campagne, c'est plein de scénarios. Ah oui, le airpack pour Mémoire 44, ça rajoute les règles de aériennes. Donc, il y a plein de choses intéressantes à jouer avec les avions dans Mémoire 44. Et les carnets de campagne, ça rajoute plein de scénarios et en plus, qui s'enchaînent les uns après les autres en campagne. C'est-à-dire que la réussite d'un scénario a un effet sur le suivant, etc. C'est des campagnes de 5-6 scénarios, quelque chose comme ça. Et il y en a 3, je crois, dans le...
Il y a combien d'avions dans l'airpack?
8 figurines qui servent pas beaucoup en fait. La figurine, en gros, c'est juste pour dire que tu fais un raid ce tour-ci.
Ah,
tu peux la remplacer par n'importe quoi.
Oui, par exemple, moi j'ai
un avion Wings of War.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Pourquoi pas un petit X-Wing japonais.
Oui.
Pour remplacer le Mitsubishi Zero.
D'accord.
Donc le.
J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit parce que moi non. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est celui avec lequel il se crachait à Pearl Harbor.
Avec les ailes comme ça là.
Comme dans Papy Boynton.
Ouais, peut-être.
C'est ça. Mais il n'y a pas que ça, et ça bouge vraiment chez les vendeurs. Ils permettent de bénéficier du scénario bonus pack. Alors, attends. On peut leur demander les scénarios bonus de l'équipement pack.
Oui, qui était soi-disant, on devait pouvoir les trouver dans les boutiques. Moi, j'ai jamais réussi à trouver dans les boutiques. Et donc, du coup, il est gratuit, mais il faut payer les frais de port. Ça coûte 2 euros pour être en lettres simples. Ou 6,50€ si tu veux faire du suivi, mais en l'occurrence, lettre simple, c'est bien. Je l'ai fait et je l'ai reçu en moins d'une semaine dans ma boîte.
Cool.
Le livret, il est pas grand, hein, genre 8 pages, un truc comme ça, mais ça rajoute les petits scénarios.
Bah, pour 2€, c'est cool, quoi.
Bah, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ça marche bien. On vous mettra les liens sur le billet pour que vous puissiez trouver. Pour que vous puissiez retrouver tout ça.
Est-ce qu'on en parle de Kickstarter ce mois-ci?
Alors, j'ai pas pris le temps de. D'abord, maintenant, chaque semaine, c'est des dizaines de projets qui démarrent sur Kickstarter, donc j'ai pas du tout pris le temps de regarder. Il y avait eu des Kickstarter dans l'été où j'hésitais à baquer, je l'ai jamais fait parce que de toute façon, je me dis, ça sert à rien, autant acheter quand le jeu sort. Non, mais moi, je regarde quand c'est les derniers jours, ils sont déjà baqués à plus de 100%. Bon, bah, de toute façon, après, si tu dis, ok, je back juste pour pouvoir le recevoir, mais genre, il y avait les trucs chez Indie Board and Cards, autant aller, ce sera Essen, donc autant aller prendre Essen directement. Ce sera même dans les boutiques typiquement Philibert, tout ça, genre une semaine après Essen, hein, donc en général je fais plutôt ça même.
J'ai vu encore mardi soir l'édition Canaille de Love Letter, c'est-à-dire AEG fait l'édition Love Letter originale en français. Ce qui va dans le sens de...
Non, c'est Philosophia qui l'a fait en fait.
Oui, enfin Philosophia, ouais, avec...
c'est pas AEG, oui. Oui, ils avaient annoncé ça.
Ce qui va dans le sens de... Attendez, ça a rien en fait de béquer pour... pas grand chose en fin de compte, il pourra avoir un truc en langue étrangère.
Bah en fait ouais, moi les Love Letters j'ai les deux. J'ai la version AEG et la version française.
Elle est toute pourrie.
Ouais, sont pareil, la version AEG aussi, j'ai niqué les cartes avec le temps. J'ai trop joué à Love Letters, c'est plus de 100 parties dans l'année, donc c'est quelque chose d'énorme. Donc on en était où parce que...
10x10.
Ouais, non, bah moi je fais 100 fois. Hein. Alors, Kickstarter. Kickstarter. Ouais. Donc ouais, donc en fait, j'ai pas backé sur les projets qu'il y avait à droite et à gauche. Mais on a un super projet par contre. Parce que Kickstarter, on dit tout le temps... Parce que par exemple, on prend Zombicide.
Non, mais on a dit qu'on n'en parlait pas, Zombicide.
Non, mais Zombicide, on peut quand même parler. Il y a eu la campagne de la saison 3 qui a été lancée. Il a quand même fait 2,8 millions de dollars.
Ils ont fait une première campagne. Alors, tu vois, je voulais pas en parler, maintenant tu m'obliges à en parler.
La première campagne, c'était 800 000 dollars.
Ils ont dit, on se lance, on a une petite boîte, on va faire donc 800 000 dollars. Et après, ils ont fait la saison 2. Plutôt que de bénéficier des 800 000 dollars, quoi. C'est avec 500 des... 000 euros. C'est,
avec
c'est...
des tas de seuils et
c'est
trucs comme ça.
3 millions d'anciens francs.
Ah, mais puis tu aurais pu.
Ouais. 3 millions de francs d'avant 2001.
Oui, parce qu'après, t'as les anciens, ça fait 300 millions de francs. Et alors, en France CFA ou en roupie, Olivier, combien ça fait?
Non, mais, tu te rends compte. Enfin, Star Realms, c'était béqué à 50 000 euros. Ils ont sorti le jeu de cartes et ils ont sorti le jeu sur tablette. Là, on parle de 500 000 euros pour la première campagne et ils ont refait la même chose. Après, c'est bien, c'est le capitalisme, c'est le monde dans lequel on vit, ça, très bien, ça marche, donc autant qu'ils le fassent. C'est ce que tu disais pour je ne sais qui là tout à l'heure, j'ai oublié.
Ah, pour 8 minutes pour un empire.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, il le fait. Mais à chaque fois, il en est à 7 campagnes réussies.
1 million et demi, 3 millions et le prochain, normalement, 6 millions.
Alors, ils ont beaucoup changé. Enfin, la saison 3, bah, du coup, on va en parler. Tu pouvais acheter le jeu de base, mais après, ils ont vraiment, c'est le truc, tu peux rajouter plein de trucs par rapport à ton pledge de base. Tu peux rajouter parce que tu veux les figurines des chiens, tu veux les figurines des machins, tu rajoutes plein de trucs en plus, plein d'options, en fait, mais à ton pledge.
C'est-à-dire, t'avais 100 ou 150, et en plus, t'avais des options?
Ouais. T'as un truc comme ça, tu rajoutais après des options et tout. Donc, c'est pour ça qu'après, ils lèvent beaucoup, parce qu'en fait, t'achètes pas non seulement, tu finances pas que le jeu, tu finances aussi toutes les extensions qui vont graviter autour. Alors c'est un truc typiquement américain, on parlera tout à l'heure de la Gen Con, Fanduel l'a dit sur ses reportings de la Gen Con, c'est t'es au pays de la figurine quoi, ils pensent qu'à ça, hein. Les mecs ils adorent toutes les figurines etc, et faut avouer quand même que les figurines elles ont de la gueule, donc si les gens ils aiment les belles figurines, ben voilà, ils, ouais, ils prennent. Donc mais pour se moquer un peu de Kickstarter, qui des fois il y a un peu tout et n'importe quoi comme projet, ou... Cet été, il y a
Attends.
Ah bon.
Je voulais savoir.
Le suspense,
oui,
est
non, encore. Oui, non. Est-ce que t'as un exemple de Kickstarter où le projet était compliqué, innovant, intéressant, pas forcément éditable et où ça marchait?
Ouais.
Vas-y.
Eh ben.
Est-ce que t'as un exemple?
Ah non, j'ai pas d'exemple. Je sais pas.
Parce que c'est ce qu'on dit. On dit tu te lances dans un Kickstarter pour lever beaucoup de fonds pour un truc qui est difficilement éditable. Tu vois, c'est ça qu'on... Et en fin de compte...
T'as des auteurs comme pour 8 minutes pour un empire. À la rigueur, il avait son jeu, il avait voulu le lancer comme ça. Il y en a, on en avait parlé une fois, il y a des boîtes qui font comme ça, qui sortent leur jeu.
Oui, mais c'est pas ça que je dis. Je dis, est-ce qu'il y a...
quelqu'un qui veut vraiment lancer un projet
avec, je sais pas, avec des masques, pas des masques, mais des bouts de carton en 3 dimensions que tu mets sur ton plateau, qui est trop difficile à faire.
Maintenant, c'est facile, ça.
Non mais tu m'aides pas en fait.
Non mais je sais, je vois ce que tu veux dire. Mais
la vraie question c'est, est-ce que en fin de compte on est un peu naïf de penser que Kickstarter ça peut aussi aider certains projets qui...
Toi aussi finance ta boîte à pizza sur Kickstarter.
Bah ouais, c'est ça.
C'est ça.
Non mais
ton jeu boîte à pizza sur Kickstarter.
Ouais c'est ça. En fin de compte y a pas de jeu à boîte à pizza. Faut arrêter Kickstarter.
Mais je pense que sinon tu manques. Ouais je pense que t'aurais pas assez de crédibilité, je sais pas.
Et donc il y a un projet Kickstarter qui a vraiment buzzé cet été, et on voulait vraiment vous parler, c'est le Potato Salad.
Le Potato Salad,
c'est
vraiment le projet Kickstarter de l'été. Vous l'avez sans doute raté, c'est bien dommage, parce qu'en fait, la personne vous proposait de vous donner la recette, tout simplement, de la salade de pommes de terre. Et il fallait backer, il y a quand même eu 6911 backers, l'objectif était de $10, il a été largement dépassé, puisqu'il a levé $55,000. C'est drôle, et tout ça c'est pour démontrer que ben Kickstarter en fait c'est du flan, il ne vérifie absolument pas les projets avant qu'ils soient mis en ligne. Non, c'est pas du flan, c'est de la patate.
Ouais.
C'était pour dénoncer un petit peu toutes les dérives, toutes les petites dérives qu'il y a autour de Kickstarter. Donc on vous mettra le lien pour ce projet. Ça montre un petit peu effectivement tout ça. Mais maintenant, je sais, on en a parlé un peu plus tôt dans la chatroom, quand on disait qu'on avait justement pas fait le tour tous les Kickstarter de l'été. Et certains d'entre vous pledgent régulièrement quand même sur ces projets. Donc
ouais.
C'est que ça marche toujours quand même malgré tout. Donc très bien, très bien. Sachez que moi j'ai jamais backé. Je ferai mon coming out le jour où ça arrive.
Bah ouais, non, moi j'ai backé, mais sur un truc, c'était pour complot, donc c'était un peu particulier. Mais là, tu vois, voilà, il y avait l'intérêt de du graphisme un peu particulier du complot brésilien, quoi. Le complot brésilien.
Coupeau. Non, coupeau. Oui, mais ça c'est sympa, parce que ça, voilà, par contre, c'est différent.
Voilà.
Enfin, quoi que Chris Harrison.
C'est ça.
Je pourrais peut-être acheter ma version de coup.
On en a parlé en off.
Ah,
c'est ça, on en a parlé en off.
Je sais pas, peut-être tout à l'heure t'en as parlé, ouais. Je crois
que j'ai, donc j'ai béqué pour ceux qui ont écouté l'épisode de où on était avec Bruno Catala savent que j'ai béqué et que je dois lui en offrir un et qu'en fait j'ai l'impression que je vais me faire. Mais le chat passe.
Il coupe le micro.
Je vais me faire avoir et que je vais récupérer le jeu Aison alors que j'ai déjà payé les frais de port. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref. Streams,
c'est...
change de nom.
Streams change de nom.
Et voilà. Devient.
Et il s'appellera Bout à Bout.
Bravo.
Alors par contre, Streams, je ne pourrais plus vous dire le nom de l'auteur asiatique qui est derrière.
Donc c'est Monster Game.
C'est chez Monster Game.
Et dites ça.
C'est un jeu, comment on va dire, de...
De chiffres, de prise de risque.
Prise de... Ouais, c'est... Il y a du hasard.
Stop ou encore.
Maintenant, c'est pas ça. C'est plutôt comme Take It Easy. C'est en gros, chaque fois, un joueur vient piocher une tuile et, avec un numéro, alors je sais plus, entre 1 et 20, je crois.
Mm-hmm.
Et le but, c'est d'essayer de faire. Et il va falloir écrire le numéro qui est sorti, il va falloir l'écrire dans une case. Et forcément, toutes les cases se suivent, c'est une sorte de. Comme une grande ligne. Et il faut essayer de caler tous les chiffres dans l'ordre croissant. Donc quand on pioche le 15, ben, ouais, à vous ça. De voir en premier où est-ce que vous allez le mettre. Est-ce que vous allez le mettre plutôt. Je crois que c'est plutôt entre 1 et 30. Et les numéros de 10 à 20 sont en double. Donc si on vous pioche le 15, est-ce que vous allez le mettre plutôt au milieu. Bah, vous allez essayer comme ça, mais après, ça va peut-être marcher, peut-être pas. En sachant que le nombre de points, c'est vous marquez pour chaque chaîne, donc de chiffres qui se suivent, vous marquez un nombre de points exponentiel. Et le
donc,
max, c'est 300 points.
Bout à bout, ça se comprend bien comme nom, mais ça reste chez Monster Game ou alors.
Oui. Je pense.
Ancienne réédition et ça s'appellera plus Stream, ça s'appellera Bout à Bout.
La boîte, elle est bleue maintenant. C'est une boîte pareille, c'est la boîte, une sorte de boîte rectangulaire avec couvert par-dessus, mais c'est des formats, on dirait des boîtes à chaussures. T'as le couvert qui descend pas complètement, je crois, et qui sur le dessus. C'est un format chez Asmodée, notamment de ces boîtes, mais voilà. Non, je sais pas, je pense que ça reste chez Monster Game, j'ai pas vérifié.
Ah, bravo!
Ah! Mon dieu,
bravo.
Quel piètre journaliste.
Zombie 15 est enfin sorti, donc on vous en a dit un petit peu en introduction, puis comme on vous a parlé de Zombicide, j'ai vraiment envie d'en parler tout de suite maintenant, tu vois, tu m'as donné envie de tout lâcher et de dire tout le mal que je pense de ce jeu. Non, vas-y. C'est très bien.
Moi je ne dis rien, je ne peux pas.
C'est très bien, si vous avez l'occasion, toujours la même chose, les jeux de zombies sont particuliers, parce qu'il y a un thème qui est particulier, qui est prenant. Zombie 15, c'est vraiment un jeu qui vous fera battre le cœur à 160 à l'heure. Mais pas longtemps, 15 minutes maxi. Il vous faudra bien le temps de la remise en place de la carte pour vous en remettre. Donc c'est sorti, ils en avaient 200-300 je crois avant la Gen Con. Donc ils en ont consacré
en France ils en
centaines.
Avaient 300 boîtes ouais.
Et puis c'est surtout ils ont surtout misé sur la Gen Con cet été. Et puis ça va ressortir la semaine prochaine. Donc quand vous entendrez ce podcast, il sera sorti. Donc n'hésitez pas, est-ce qu'on met le MP3 en ligne?
Le site est en train d'avancer.
Si, alors, si au moment où vous écoutez ce podcast et que le mini-site Zombie 15 n'est toujours pas en ligne, vous aurez chez nous le MP3. Vous pourrez venir le chercher parce que tout le monde n'a pas de CD. J'ai vu un truc bizarre, enfin rigolo, ça s'appelle le Mobile Frame Zero. Alors, c'est un tactical... FPS avec des Lego. Ça vaut un peu cher, ça vaut 25 dollars US pour faire jouer avec vos Lego préférés.
Mais je crois qu'on en a déjà parlé, mais
non,
il y a deux ans.
Quoi? Il y a deux ans?
Un truc comme ça, ouais.
Bon.
C'est possible. Parce que c'est Lego fait pas de jeu guerrier. à part les Star Wars, machin, mais je veux dire, contrairement, tu sais, une marque qui utilise les mêmes concepts de briques, oui, c'est Kobe, là, c'est polonais.
Tout à fait.
Ah, peut-être que c'est pour utiliser ce genre de choses. Ah non, mais c'était pas celui-là. Non, c'était pas celui-là de jeu, effectivement. Je vois.
Il y a et donc,
petit robot.
C'est tactique. Ils disent que c'est intense. C'est un jeu avec des squads de Lego. Alors, je sais pas du tout comment on les construit, ni avec quelles pièces. Je trouve ça assez bien fait en fin de compte, parce qu'effectivement, le Lego n'est pas un jeu garnier, mais ils arrivent à faire des petits robots et puis des Marines. Ça dure un peu longtemps, je trouve. Ça dure 2h30. Et ça se trouve sous deux formes. Non, non, mais enfin, tu vois, ils auraient pu faire un truc un peu plus.
C'est des figurines, sans doute, à la base. Enfin, ouais, voilà.
Ouais, c'est encore des Américains, quoi. Mais non, excusez-moi les gens qui font des figurines et qui nous écoutent. Tous les figurinistes ne sont pas américains, je sais. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. On peut acheter le PDF. Alors, c'est un prix suggéré de 10$. Si ça vous intéresse, payer un peu plus, 15-20$. Ou sinon, vous pouvez le prendre pour 5$. Et vous pouvez aussi acheter le livre, puisqu'il y a un vrai livre de règles. C'est 25$, et puis ça aidera mieux les auteurs de ces règles de jeu. Puisque là, en fait, c'est marrant parce que le support est vraiment décorrélé de l'œuvre. C'est-à-dire que on parle souvent du prix des jeux, du matériel qui constitue
du rapport poids de la boîte, prix,
voilà,
et tout ça.
Tout à fait. Et là, en fait, on est dans un rapport qui est complètement différent. C'est-à-dire que tu vas vraiment avoir un jeu, mais tu payes pas le matériel. Tu payes vraiment le kit de montage et puis les règles qui vont avec. Donc ça s'appelle.
Et les Lego, ouais.
Ah bah oui, ça. Non, mais ça, tout le monde en a les Lego. Ouais, tout le monde.
Si, si, bien sûr, mais pas ceux qui permettent de faire les petites.
Faites des vides greniers. Non, mais sinon, ça se trouve, je pense, assez facilement. Ça s'appelle Mobile Frame Zero Rapid Attack. Ça se trouve en ligne et puis sur notre site. Est-ce que vous connaissez Ludovox ? Bien sûr que vous connaissez Ludovox.
Ah oui,
pas ne pas connaître Ludovox.
T'es proxy jeu, vous connaissez bien.
Puisqu'on a reçu pour l'épisode rose Chanouillette. Et puis, Fendoel est allé à l'inauguration de Ludovox qui se tenait au dernier bar avant la fin du monde à Paris.
Fin juin.
Où il y a eu une conférence de presse pour annoncer la sortie d'un site communautaire.
Ouais, de site d'actu.
Oui, et surtout communautaire. C'est pas un site qui est uniquement tenu par Chanouillette, bien qu'elle soit très. Très actif sur le site comme elle était sur.
Mais il y a aussi beaucoup d'articles, effectivement. Déjà, moi je suis étonné du succès du site à peine 2 mois après son lancement, alors que c'était l'été.
Mm-hmm.
Effectivement,
ils ont
il y a
beaucoup
plein
travaillé.
D'articles. Ouais, ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé à tous les niveaux. Hein. Je pense leur com quand ils ont lancé. Ils ont travaillé au niveau des articles, du contenu. Enfin, au niveau du site, le site a beaucoup évolué. Effectivement, et du coup, on a déjà un site très très actif. J'ai même du mal à tout suivre en fait. Tellement il y en a.
Et
pourquoi tu parles Ludovox?
Parce qu'il y a un article sur Lyon.
Ah
et
ouais.
Comme nous sommes de Lyon, nous sommes un podcast mondial de Lyon.
Voilà. Ils ont fait un super article qui résume toute la vie ludique à Lyon. Elle est énorme puisqu'il y a tout, il y a énormément de bars à jeux.
Il y a un podcast.
Il y a un podcast. Il y a The Podcast. Je pense même qu'il y en a d'autres, mais bon, il y a nous. Pas des podcasts ludiques, hein, mais des podcasts tout court.
Ouais, ouais.
Y a tout, il y a des auteurs de jeux, je ne sais plus ce qu'ils citent dans l'article. Et un article très sympa parce que je pense que eux, en écrivant l'article, nous, en le lisant, on découvre des choses. Et je pense que. Enfin, j'espère qu'ils l'étendront à d'autres villes. Même si peut-être que toutes les villes n'ont pas le talent de Lyon en matière d'activité ludique.
Ben non, mais on parlait des ludopathes nantais, t'as genre des boutiques, des associations, des
voilà.
Ludothèques, des.
Moi, je pense qu'il y a des auteurs à Nantes, il y a des boutiques, il y a Paris, je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est peut-être un peu trop, il y a peut-être trop de choses.
Je suis pas sûr.
Ouais, il y a quand même plusieurs cafés. Maintenant, je vous vois, vous allez, quand vous jouez les mardis soirs, vous allez à plusieurs endroits maintenant.
Ben non, on va à Robin des Jeux.
Ah, vous êtes toujours à Robin des Jeux.
Oui.
Ah,
Robin
avant,
des Jeux, c'est.
Mais avant, vous ne disiez pas que vous alliez là-bas, enfin, sinon.
Non, avant on allait au dernier bar avant la fin du monde.
Voilà.
Mais les serveurs sont pas sympas au dernier bar avant la fin du monde. Et les consos sont super chers. Donc c'est cool.
Mais tu t'en fous, c'est la fin du monde. Non.
Et Robin des Jeux a ouvert cette petite boutique très sympathique. Et puis c'est The Place to Be quand vous êtes dans le dans le milieu pour rencontrer des gens. Il n'y a que 3 tables et il va être rapidement victime de son succès. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais oui, mais c'est déjà pas mal. Enfin, il y a vraiment du monde, quoi. Enfin, la boutique n'est pas grande, elle est remplie. Il y a toujours quelque chose à boire.
5 tables, me dit Alexis dans la chatroom.
5 tables.
Non, mais peut-être que lui, il avait déjà trop bu, et ça s'est dédoublé.
C'est ça.
Ou inversement, toi, t'as compensé en croyant que t'étais.
Il y a 5 tables, d'accord. Je suis d'accord.
Elles sont pliées, il dit. D'accord.
Mais voilà, il peut en rajouter. Il y en a 3 grandes, et après, il peut en rajouter une ou deux si nécessaire. Et il va faire du jeu de rôle peut-être le jeudi, donc il serait ouvert le mardi et le jeudi. De toute façon, il faut aller chez Robin des Jeux. Mais bon, pour revenir à Paris, il n'y a pas tant de lieux comme ça. Il y a Café Messia, y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas par rapport à
la taille.
Voilà, la taille. Bref. Et puis, tu vois, les vrais auteurs de jeux de société, ils habitent pas Paris, ils habitent Lyon. Tu vois, ou la région, toi. Il y a Catala, il y a Boza, un peu plus loin.
Tu prends une région un peu étendue quand même.
Ouais, mais ça va, quoi. Attends, Attends, Valence, c'est 100 km, hein. Mantes-la-Jolie, c'est 50, hein, donc ça va. Et
ouais.
Voilà, c'est important. C'est pas dur à comprendre pourquoi ils ont commencé par Lyon, parce que voilà, c'est la capitale du jeu de société en France. Des goodies pour Lewis et Clark.
Et oui, Lewis et Clark, donc, qui est un jeu qui est sorti il y a presque un an, mais qui a quand même remporté un franc succès, et ils ont repackagé pour le sortir aux États-Unis. Donc pour fêter un peu tout ça, ils ont, pour la Gen Con, parce que Ludonote y était.
Bah oui, comme tout le monde, hein.
Bah oui, on en reparlera tout à l'heure. Et ben, ils avaient sorti du coup des goodies pour Lewis et Clark. Alors, les goodies qui étaient très sympas, parce que tu pouvais avoir donc Uwe Rosenberg qui vient t'aider dans ton expédition.
Et Monsieur Fall aussi ?
Non, non, heureusement, il n'y a pas Monsieur Fall, ils ont été un peu plus originaux.
Monsieur Fall, zombicide. Uwe Rosenberg, oui, c'est original.
Uwe Rosenberg, non, mais t'as aussi une carte, c'est Boza et Catala. Attends, je vais te les sortir tous, mais.
Une carte.
Tu as Cédric Chaboussi, évidemment, qui est l'auteur.
Catala et Sir Chevalier. Une carte Catala et Ludwig Leblanc.
Tu as Martine Wallace. Et là, tu vas la vouloir. Non, il y a Martine Wallace. Bon, moi, c'est celui qui me fera le plus.
Bon, pour moi, ça perd un peu son côté historique, tu vois. Je suis pas très client de ça, quoi.
Ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'est de la goodies, hein. C'est juste distribué sur le salon. Par contre, ils ont bien dit que par contre, la carte qui avait été faite pour le magazine Plateau, le goodies ne sera pas, lui, sera jamais réédité parce qu'il était exclusif au magazine. Voilà. Et surtout, donc il y a ça. Donc il le donnait à la Gen Con. Je pense qu'il y en aura pour Essen. Et ça se trouve, il y en a même sur la boutique où ils disent que ce sera disponible.
Je me retiens de dire ouais. Après avoir dit ouais oh.
Finalement, tu vas l'apprendre.
Non, mais le thème est super intéressant et super important dans le. Et super travaillé, surtout dans Lewis et Clark. Où t'as. C'est des vrais personnages qui ont vraiment existé ou qui ont vraiment pris parti dans l'expédition.
Qui ont leur historique dans la règle.
C'est pour ça que. Et papa, c'est qui Uwe Rosenberg? Il a vraiment été avec Lewis et Clark?
Bien sûr!
Déjà, Lewis et Clark te dire mais Clark, c'est vraiment Superman? Non. Donc ne mélangeons pas tout, s'il te plaît.
Mais enfin, les illustrations, elles sont quand même faites par Vincent Dutray, elles sont belles, elles sont sympas.
Ouais.
Et puis après, peut-être que, tu sais pas ça encore, parce que bon, peut-être que c'est que dans 5 ans que ça arrivera et que la machine à remonter le temps existera et que donc les auteurs de jeux auront le droit d'aller voir en vrai Lewis et Clark. Tu vois? Et du coup, des cartes vraiment historiques.
Ok, mais c'est
bon,
pas.
Super.
On a dit qu'on digressait pas et que.
C'est pour dire que c'est peut-être historique. Et.
Il y a une autre nouvelle pour Lewis et Clark, c'est la mise à jour de la règle. Enfin, c'est une proposition de règle pour les joueurs qui ont beaucoup joué, pour lutter contre un défaut des joueurs qui attendent.
Qui attendent trop longtemps.
Qui restent en arrière, en fait.
Parce que c'est un défaut du jeu, mais il suffit de jouer sans s'en préoccuper. Enfin, c'est toujours le problème avec
des joueurs,
c'est
qui,
de certains joueurs un peu trop petits, qui optimisent un peu trop et qui vont aller déceler un truc.
Faut arrêter de jouer avec
impossible.
Eux.
Ouais, non, ou qu'ils jouent entre eux, sur une île.
Bon, allez! Qu'on leur coupe la tête!
Ça sera plus dur pour jouer.
Donc, chez Lewis et Clark, on va peut-être répéter parce que là c'est important. Des goodies et une mise à jour des règles, donc allez voir sur leur site.
Bah, je mettrai
et,
les liens sur
les goodies
billet.
pour Essen. Dominant Species en français en septembre en boutique. Oh non!
Qu'est-ce qui t'arrive?
Bah, moi je l'ai en anglais.
Ah, c'est pour ça. Dominant Species, ouais, ça faisait. En fait, j'ai mis cette news parce que ça fait un moment que c'est promis que ça arrive jamais, Dominant Species en français. Chez Philosophia. Bon, c'est normal, chez Philosophia, des fois, les jeux, ils mettent du temps à arriver. Et là, ça y est, il est en précommande, en tout cas, sur la boutique Philibert. Donc, pour une 50aine d'euros, vous pouvez avoir Dominant Species en français.
En précommande.
Ouais, en précommande, pour mi-septembre.
Comme Barbarossa, quoi.
Que t'as pas reçu.
Bah, qui est juste pas sorti, quoi.
Non, mais il est pas sorti, mais c'est différent, il est en précommande.
Oui, il est en précommande, il devait sortir début d'été. Après, il devait sortir en août. On est le 27 août, il est pas sorti. Donc, tu peux dire Philosophia, mais bravo, sans détour. Hein.
Ouais, non, mais ce cas, c'est que la nouvelle de Dominant Species en français, ça fait un moment qu'on l'entend. Donc, ça, c'est du jeu. De gros gamer, voilà, qui est un petit peu. Qui est franchement rugueux, je pense, hein, de par la structure de sa règle. En fait, l'auteur. Chad Jensen, là, ou un truc comme ça. Il est allemand et il a fait son autre jeu très connu, c'est Combat Commander, qui était un wargame. Donc,
Très bon jeu, Combat Commander.
Et Dominant Species, c'est pareil, ça fait partie des meilleures ventes. Les deux jeux font partie des meilleures ventes chez GMT, l'éditeur américain. Et donc, bref, moi, je me suis dit, tiens, bah, c'est l'occasion là, de mettre la main dessus, puisqu'il sort en français.
Si il sort en français,
bref, c'est pas grave, je suis patient.
Quand il sortira en français.
J'ai toujours pas acheté en version GMT, je peux attendre encore un peu. Et si vous voulez, avant, vous rendre compte un petit peu de ce que c'est que ce jeu, parce que c'est vrai que... voir un peu la règle, voir si ça va vous plaire ou pas, parce que de par ses mécanismes, il y a quand même un peu de la pose d'ouvrier, des choses comme ça, hein, et de la beaucoup de majorité en plus, tout. C'est, vous pouvez acheter la version sur iPad, et peut-être avec compatible iPhone, je sais plus, pour environ 5€. Par contre, attention, vous avez un portage, mais qui est pas le meilleur. J'en ai jamais parlé parce que j'ai pas grand chose à dire sur le portage. Il est minimaliste. Le tutoriel, il vous montre juste un tour de jeu, comment on place et en gros, comment on définit ses actions, les effets sur la carte, et puis il dit voilà, débrouillez-vous les gars. Et là, ben, il y a un moment de solitude. On est obligé en fait d'aller voir dans la règle du jeu, qui est livrée en anglais dans l'application, pour pouvoir se dépatouiller un petit peu.
C'est horrible ça. Ça, c'est.
On va reparler tout à l'heure. C'est une catastrophe, le portage, ouais. On parlera de ça avec Manhattan Project.
Ouais, c'est la différence entre le portage et. Merde, comment j'avais dit ? L'adaptation. C'est-à-dire que le portage, tu prends le truc et tu le remets comme c'est sur le.
Tant bien que mal.
L'iPad. Et l'adaptation, bah, c'est Agricola.
C'est Agricola, ouais. Ouais, ou même Eclipse par exemple, c'est très bien adapté. Voilà, bah oui, pour des jeux. Parler de gros jeux qui sont adaptés. Bon, mais bon, après. Je pense malgré tout, c'est quand même un jeu comme Dominant Species, c'est pas le genre de jeu qu'un studio comme Playdeck chercherait à faire, parce que c'est pas le genre de jeu qui va se vendre beaucoup. Donc je pense que ça a été un développement un peu plus par un fan du jeu qui le propose. C'est appréciable. Alors j'ai pas assez joué, je maîtrise pas assez le jeu pour vous dire si les IA valent le coup ou pas. Je pense que faudrait que je voilà comme toujours.
Parce que
le temps pour
tu donc t'es obligé de lire la règle, mais ça t'apprend à jouer.
De tutoriel.
Ouais.
Ça dit juste, voilà, mettez votre action là parce que ça va vous faire ça. Enfin, non, ça t'apprend pas.
Ça me rappelle Essen l'année dernière.
Oui, c'est un peu.
Alors, attention, c'est comme les chasseurs, les présentateurs, les démonstrateurs de jeux. Hein. Il y a des bons démonstrateurs de jeux et il y en a des pas bons. Enfin, bref.
Ouais, mais là, on peut plus facilement les différencier que.
Ouais, tout à fait, que les bons et les mauvais chasseurs.
Ouais. Il y a ceux qui expliquent vraiment le jeu, et puis ceux qui un brode n'importe quoi.
Alors voilà, tu mets ton avion ici, et après...
Et puis c'est bien.
Et après, les règles, hein, on s'en fiche. Bref, arrêtons là le troll. 4,49€ sur iPad, et c'est fort iPad, donc je pense que c'est pas sur...
C'est pas universel. De toute façon, je pense que c'est un petit peu dur de jouer sur un iPhone à ça.
Alors la question, c'est est-ce qu'il faut que je l'achète?
Ben, je sais pas, ce que t'as joué ta version anglaise.
Non.
Bon, est-ce que tu y joueras?
Bah, peut-être que... En fait, si tu veux, c'est comme Lord of Waterdeep. Maintenant, j'y ai joué en vrai, et ça me donnait envie de jouer sur iPad.
Ouais, mais à l'inverse, moi, je me suis dit, tiens, Dominant Species sur iPad, et je vais voir le tutoriel, ça va me faciliter l'apprentissage de la règle.
Oui.
Que dalle. Ouais. Par contre, je me dis, bon, bah, en faisant quelques parties contre des IA... Je vais mieux assimiler le jeu et je serai en mesure de l'expliquer de manière bien plus fluide quand je vais faire une première partie. Plutôt que la moitié du temps, les yeux rivés sur la règle pour dire « Ah oui, alors attends, on fait comme ça, etc. » Par contre, en plus, je pense que l'iPad fluidifie quand même le jeu, où il y a un certain nombre de fois où tu dois faire des décomptes dans tous les sens. Là, au moins, l'iPad le fait pour toi. Ça, malheureusement, dans le jeu plateau, t'as pas.
Witness en préparation chez Istari. Excellent, a priori, jeu de pour Axe. Excellent jeu de Dominique Baudin pour 4 joueurs. Et seulement 4 joueurs, a priori.
Ouais, tout pile.
Et
pas
alors,
moins, pas plus.
Et alors, c'est 64 enquêtes qui sont. Alors, c'est Dominique Baudin, c'est un prof de maths.
Ah, c'est une tronche.
Et
il a fait Vitrail.
Il a fait Vitrail. Alors, ça, Vitrail, si vous le trouvez, si vous trouvez quelqu'un qui sait jouer à Vitrail, ne jouez pas avec. C'est un peu comme
Razen Roboter.
Ricochet Robot, parce que les gens qui savent jouer à Ricochet Robot, ils vous explosent.
Je pense que Dominique Baudin est très bon, hein, à Ricochet Robot.
Vas-y.
Ouais, Vitrail, juste pour dire, c'est un jeu où en fait on a des...
On n'est pas en train de présenter Vitrail.
C'était pour dire le côté difficile. On a des plaques transparentes avec des points de couleur à quelques endroits. Et on en a quatre. Et on peut en les mettant les unes au-dessus des autres, on peut masquer ou afficher des points de couleur. Et le but, ça va être de reproduire des configurations, des constellations qui sont données sur une carte au centre. Évidemment, chaque joueur a son set de cartes transparentes. Et c'est le premier qui réussit, qui gagne la carte. C'est très simple. C'était édité chez Cocktail Games à l'époque. Je l'ai toujours parce que j'adore ce jeu, mais effectivement, il y a des joueurs qui arrivent mieux que les autres. Et par contre, donc, ça fait partie de ces jeux où y a des joueurs qui vont toujours plus écraser les autres. Ça, c'est dommage.
Est-ce que tu sais si ça se trouve toujours, Vitrail ? Parce que c'est un jeu de 2006, donc c'est un très très vieux jeu.
C'est plus édité parce qu'en plus, c'était pas simple à faire fabriquer. Je sais que Mathieu, il avait eu du mal. Et finalement, il l'a fait faire en Chine.
Donc Vitrail, si vous le trouvez, achetez-le. En blind, et puis vous, de toute façon, c'est, si vous êtes sur un vide-grenier et que vous le voyez, il faut le prendre. Et Witness, la particularité, donc, c'est des casse-têtes, c'est des énigmes.
Avec un, a priori, de ce que j'ai vu sur le site d'Istari, avec en plus une licence Black Mortimer.
Oui, c'est ça, c'est ça dont je voulais parler. C'est ça, là, ils ont fait super fort.
Moi, c'est bien ça.
Ouais.
Moi, ça me paraît très intéressant comme jeu. Et ça change complètement, c'est leur sortie d'Essen. Je sais pas s'ils ont une autre sortie prévue pour Essen, parce que c'est complètement différent de ce qu'ils sortent habituellement. Mais c'est tant mieux. Je pense que, enfin, c'est pareil, je l'achèterai pas à Essen directement, je l'achèterai plus tard en boutique, mais je pense qu'il va s'inviter sur mes étagères. Enfin, j'en suis sûr.
Essen, c'est dans.
C'est le
2 mois et demi ?
Non, un mois et demi.
Un mois et demi ?
Bah, un peu moins de 2 mois.
Oh là là.
Yes ! C'est la seule bonne nouvelle de la rentrée.
Oui, c'est ça.
C'est qu'Essen n'est pas loin.
Les impôts et machin ?
Non, ça t'oublie. Tu dis
la météo,
Essen,
et là, voilà.
Juste Essen.
Ok, donc, vous pourrez trouver des listes déjà, les previews sur Board Game Geek, des articles sur Ludovox notamment. Je pense qu'il y en a aussi sur Tretrack. Et puis on vous en parlera dans le prochain numéro. Jérémy vous fera son top de ce qu'il aura regardé et puis repéré, en fait.
J'ai encore rien commencé, hein, je vous le dis tout de suite.
Il y a une grosse actualité sur les écrans, par contre. Blood Bowl sur iOS, Android et Amazon. Alors ça, c'est...
Sur l'App Store.
Est-ce que on joue sur...
Non, mais Amazon App Store, c'est un store pour les Android aussi.
Oui. Oui, parce qu'en fait, Amazon te donne des bons d'achat quand t'achètes des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai acheté un aspirateur et j'ai eu 5€ pour mon Android. Je suis super content.
T'as tout le temps. Et même, ils ont lancé leur propre monnaie, machin, ils t'offrent en permanence des trucs.
Des bitcoins ? Coin.
Non, mais je crois qu'ils ont lancé une autre monnaie pour acheter les jeux. Enfin, bref. Oui, actuellement, ils sont très virulents, Amazon, pour en tout ce qui concerne leur activité App Store. Mais bon. Si vous avez de l'Android, hein, ça vaut le coup. Et donc,
absolument.
Donc Blood Bowl, donc il est à 4,49€ sur toutes les plateformes. Mais on peut jouer, en fait, c'est un petit peu comme on achetait le Blood Bowl version plateau il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire
chez Warhammer.
On achetait, le Games Workshop.
Pardon.
Moi, j'avais la version avec le plateau en polystyrène et t'avais en gros une armée de figurines d'humains, une équipe et une équipe d'orques. Oui. Et voilà, et après, si on voulait jouer d'autres équipes, il fallait racheter les figurines, acheter les suppléments. Il fallait passer à la caisse. Bon, après, tu pouvais te débrouiller, hein. Tu disais que ton humain c'était autre chose, c'est pas grave, ta figurine. Mais...
Quoi ?
Alors que là, dans l'application mobile, par contre, bon, elle est que à 4,49€, hein, à l'époque, le jeu, tu vendais je sais plus combien.
44,99€.
Non, je crois que c'était 400 francs. francs.
400 francs.
Parce que je parle en francs. Ouais, mais 400 francs en 80.
Ça fait 600 16, euros.
95.
60 euros.
Ouais, même plus, je pense, par rapport au pouvoir d'achat de l'époque.
Oui, c'était très cher.
Donc c'était très cher.
Mais là, on parle
surtout
d'un temps que les gens ne connaissent pas.
Voilà, qui n'était pas fortuné. Le...
Oui, mais c'était un moment où il y avait beaucoup moins de jeux. Où on en achetait, tu vois,
ah bah oui, bien sûr.
Acheté ton,
ah bah mon
ton Blood
Bowl,
Bowl
je l'ai usé. Quoi. Ouais, voilà. J'ai joué énormément, énormément. Et donc, pour revenir à l'application, donc en fait, en gros, pour 4,49, vous avez juste les humains et les orques, et le reste, c'est en IAP. Donc in-app purchase... tout, je sais pas à quel niveau ça vous devez acheter, etc. Et Blood Bowl, le problème c'était que le jeu il a un peu vieilli, non? Tu jettes quand même des pelletés de dés et tout ça. J'ai beaucoup joué à une époque, mais je suis pas sûr que j'y rejouerai maintenant.
Alors peut-être si vous cherchez un jeu qui se rapproche de ça, Helvetia Cup, chez Helvetia Game, c'est un jeu qui reprend un peu le concept avec. Un sport avec des équipes, et vous serez peut-être, c'est peut-être une mise à jour heureuse de Blood Bowl. Il n'y a pas que Blood Bowl qui sort sur Android.
Oh non, il y en a plein.
Mais comme vous avez des bons d'achat parce que vous passez chez Amazon pour acheter votre aspirateur.
Attention, ouais, il n'y a que. Je suis pas sûr que les autres soient sortis sur l'Amazon App Store. Hein.
Oh merde.
Je pense donc sur le Play Store. En tout cas, moi j'ai que les liens vers les Play Store. Donc ils ont sorti San Juan. Donc ça, c'est
excellent.
Ravensburger qui fait le portage. Bah si c'est le portage iOS, c'est un bon portage. Après le problème du jeu, c'est que moi je trouve que
il est simpliste.
Au bout de quelques parties, on se lasse parce qu'il n'y a pas énormément de stratégie.
Il est limité.
C'est limité. Voilà. Mais après bon, à 4,99€, vous en ferez toujours un nombre de parties suffisant pour. Enfin, moi j'estime en tout cas pour justifier l'achat. Mmh. Quoi.
Donc pour remettre les choses dans leur contexte, San Juan, c'est Rest of the Galaxy et Puerto Rico qui aurait fait un bébé. Donc c'est l'équivalent Rest of the Galaxy de Puerto Rico avec des rôles. Et voilà, c'est bien et c'est beaucoup plus simple que Rest of the Galaxy. Peut-être une marche pour aller ensuite vers Rest. Peut-être, j'ai dit.
Ouais, si, c'est ça. En fait, Rest of the Galaxy, il est sorti après parce que justement l'auteur il s'est dit bon, faut qu'on fasse quelque chose de mieux quand même.
Talisman.
Bon, Talisman, voilà, juste
le
Talisman.
Jeu de loi des années 90.
Qui revient dans les années 2010, donc à 6 euros.
C'est 0,4. Cher, non. Enfin, même pour un jeu.
Mais je crois que sur iOS aussi, il est cher.
Ouais.
Pour un jeu de loi.
Donc Blood Bowl on a parlé, Castle Builders
c'est un petit jeu gratuit, je vais pas entrer dedans en détail, c'est pas un jeu partage là cette fois-ci, c'est un nouveau jeu, je me trompe pas.
Mm-hmm.
C'est gratuit donc vous pouvez l'essayer.
Et puis Manhattan Project
qui Alexis dit que c'est pas bien, Castle Builders enfin je pense que c'est pour celui-là il met c'est une bouse.
D'accord.
Ce qui est bien c'est que nous hein, on va pas à moins qu'il parle de Talisman, ouais, on sait pas trop.
Bah, Talisman, c'est un jeu qui a mal vieilli, quoi. Ça,
il disait Talisman, bon, ça va. Alors, donc, Castle Builders, si tu pouvais couper le montage, ce serait mieux, mais ça sera pas fait.
Non, non.
Donc, allez-y, ça doit être très bien.
Donc, je vous rappelle que nous avons une chatroom. On essaye, alors, encore une fois, aujourd'hui, c'était un peu particulier parce que c'est un épisode charnière. On va essayer d'annoncer un peu les épisodes. On vous dira, venez vite, venez tous dans la chatroom.
Je les annonce sur le site, en fait. En haut à droite du site, c'est marqué prochain live, voilà. Quel jour, telle heure.
Tu l'as noté le prochain?
Bah, suite ce soir, oui.
C'est le 18 ou le 23 septembre.
Le 25. Mais il faut qu'on se décide parce que.
Oui.
Qu'on choisisse la date.
D'accord.
Ce soir.
Et puis, The Manhattan Project, qui est à 5,13€.
C'est comme ça. Bah, c'est un peu. Il n'y a pas de palier comme
sur Android. Et puis, il doit être un peu plus. Un peu moins cher. Et peut-être à 4,99€, un truc comme ça, sur iPad. Manhattan Project sur iPad.
On en parle maintenant?
Oui, on en parle maintenant.
Allez, c'est parti.
Alors. Manhattan Project sur iPad, c'est un portage. Ce n'est pas...
Une adaptation.
Une adaptation. Donc, tu as... c'est bien fait, hein. Tu vas avoir des petites aides. Tu vas savoir combien tu as d'ouvriers bleus, combien tu as d'ouvriers verts. Tu vas pouvoir faire... Je crois que c'est un jeu de pose d'ouvriers. En fin de compte, les cases qui sont disponibles sont encadrées. Donc, il y a une aide de jeu ou une aide au jeu. Par contre, il y a un vrai gros problème, c'est que... je mets un petit peu le son.
Une musique bien d'époque. Ah non, pas du tout. Si.
Ah, c'est classe, hein. Donc les graphistes n'ont pas du tout changé.
On sera dans James Bond.
C'est ça. Et tu as donc une espèce de grille en bas et en haut. Et en fait, je vais te le montrer, c'est pas du tout radiophonique, mais quand tu tires un peu, tu vois.
Ouh, j'aime bien.
Tu as une certaine, t'as pas du tout d'inertie. Donc, tu vas pousser complètement ton plateau et tu vas sortir un peu du cadre.
Ouais, carrément, tu ne vois plus le plateau en fait. Le plateau central, on le voit plus que sur une extrémité.
En plus, c'est complètement psychédélique parce que tu as une sorte de vide.
Parce que tu n'as peut-être pas mis le.
Le quoi ?
Il y a peut-être la place pour un autre joueur, non, ici ? Un plateau individuel d'un autre joueur ?
Ouais, mais bon, ça se gère, quoi, oui.
Bien sûr, mais c'est ça, mais c'est tout. Non, mais ils n'ont pas géré.
Donc c'est bien parce que tu vois, tu peux pousser les pièces, c'est cool. C'est cool. Mais en fait, il y a deux gros problèmes, c'est ça. C'est le fait que tu pourrais dire quand tu retapes sur le plateau, bah, ça recentre, mais non. Donc tu es obligé de revenir sur ton plateau, de zoomer un peu. Et tu vois, ils auraient dû mettre des paliers, des écrans pour dire, voilà, tu tapes une fois, tu vas zoomer sur le plateau. Tu tapes une fois, tu vas zoomer sur la place qui t'intéresse. Enfin, tu vois, ils auraient pu penser à quelque chose de plus...
Disons que ce serait sorti il y a 3 ans, on aurait accepté encore déjà difficilement. Mais maintenant, après le haut niveau que certains ont mis...
Et puis, le deuxième problème, c'est que t'as pas de tutoriel. Et là, c'est juste dommage, quoi, parce que c'est pas un jeu qui est très compliqué...
Non.
Mais ils auraient pu faire 3-4 niveaux en disant bah voilà le placement d'ouvrier, voilà ce qu'il faut faire au début, voilà et puis après débrouillez-vous quoi, tout simplement. Ils l'ont pas fait. Juste la chose qui est très bien faite, c'est que en bas tu as des petits boutons. Tu peux undo, ce qu'on peut faire assez rarement dans les jeux. Tu peux reset le turn, tu peux faire des choses. Tu peux récupérer tous tes travailleurs, tes workers. Donc ça c'est pas mal, ils sont quand même un petit peu pensés. Et puis la musique.
La musique c'est le premier truc que je coupe dans une application.
Donc Manhattan Project c'est un excellent jeu, jeu de placement d'ouvriers avec beaucoup d'interactions. Là encore sur l'iPad je pense qu'on va manquer cette interaction et que c'est des jeux qui à mon avis prennent toute leur saveur quand t'es autour d'une table
et quand tu envoies tes bombardiers.
Quand t'as des tractations tu peux regarder les gens dans les yeux et leur dire on est potes, hein, on est potes. Ça tu peux pas le faire et c'est très dommage parce que ça sert à rien. Voilà.
Carrément.
Non, les gens, oui, parce que les gens qui connaissent déjà le jeu ou qui ont le jeu, bah peut-être qu'ils vont y jouer. Mais les gens qui ne connaissent pas le jeu, qui vont se dire tiens, je vais l'essayer comme ça, je vais voir si ça me plaît, si je l'achète ou pas. Bah, en fin de compte, ils vont être dégoûtés. Enfin, je suis peut-être un peu extrémiste, mais autant.
Mais moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est un des meilleurs jeux de pose d'ouvrier. Enfin, pour ceux qui aiment l'interaction. Pas celui qui n'est pas pour les autistes, c'est vraiment très très bon. Il y a vraiment une très forte interaction en fonction notamment des avions, etc., qu'on va pouvoir envoyer sur les adversaires. C'est vrai que le portage, en fait, j'hésitais à l'acheter, puis quand j'ai vu partout il s'est fait bien défoncer, j'ai pas acheté. Et je pense effectivement que les gens n'achèteront pas forcément la version plateau. Et c'est dommage parce qu'en plus, il vient de sortir en français.
Il vient de sortir, il y a une mise en
jeu. Maintenant, la version plateau, avec via Maramunta / Asmodee. Et ce que j'étais en train de chercher pendant qu'on discute là, justement, il me semblait bien, ils ont lancé l'éditeur Minion Games qui est habitué à faire des projets Kickstarter. Manhattan Project d'origine, le jeu de plateau a été un Kickstarter il y a 3 ans. Ils ont tenté de faire une campagne Kickstarter aussi pour financer son développement et ça n'avait pas marché. Donc cette sortie elle est un peu au milieu de nulle part. Ils demandaient à l'époque 50 000 $ pour se donner une idée, hein, si je me trompe pas. Parce que Kickstarter cache les projets qui n'ont pas été réussis. Mmh. Ouais, bref, j'ai pas le temps d'aller chercher la vraie version, le vrai lien. Et du coup, ils ont dû passer par un développement à bas coût et pas par les super studios. Mais en même temps, les bons studios de développement, ils sont quelques-uns seulement. Ils doivent être déjà débordés de carnets de commandes. Donc, si vous voulez sortir quelque chose rapidement, ils ont choisi ça. Mais au final, je sais pas. Je pense que c'est mitigé. Surtout à 5 €.
Et à l'autre bout du spectre, vous avez Lord of the Waterdeep, toujours. Donc, on en parlera tout à l'heure parce que je l'ai découvert ou redécouvert cet été. J'ai vraiment bien aimé. Donc, Lord of Waterdeep, parce que j'ai toujours l'habitude de dire of the Waterdeep. C'est un jeu Wizard of the Coast et on est à l'autre bout du spectre. Quand, tu vois, je disais, t'as pas d'inertie dans Manhattan Project. Là, quand tu joues, alors je suis rentré dans le.
Oui, tu envoies avec ton doigt et puis ça, ça se ralentit un peu.
C'est ouais, c'est ça. C'est même mieux que ça. C'est-à-dire que là, on commence le jeu. On est au milieu du plateau, qui est un plateau de toute beauté, animé. Tu vois, il y a des, les ouais, oiseaux qui passent.
À l'Agricola, quoi.
Super joli. Et en fait, quand tu... On regarde, parce que sinon, ça sert à rien. Il y a comme ça, hop, je pinche. Et en fait, ben, j'ai tout mon plateau. Mais j'ai pas l'extérieur de mon plateau, j'ai juste mon plateau.
Ouais, mais comme ils font sur... comme t'es un petit peu partout maintenant, sur l'Eclipse, Agricola, etc. Oui. Effectivement. Oui. Tu peux pas avoir... Tu peux pas tout voir. Hein. Faut pas vouloir tout mettre au même écran.
Et donc, il y a deux extensions qui sont sorties pour Lord of the Waterdeep qui coûte à peu près 2,50€ je crois chacune. Je vous conseille l'extension qui s'appelle, je vais la retrouver, on devait pas parler de ça mais je m'en fiche, j'en parle quand même.
C'est le premier épisode, c'est comme ça.
Mais non, mais on n'a pas, enfin, on n'a pas fini encore une heure. Il y a les deux extensions qui sont Under Mountain et puis Skullport. Skullport va rajouter un système de corruption qui est vraiment très intéressant pour le jeu. Donc je vous le conseille. Si vous voulez, si vous avez l'application, si vous voulez tester Skullport, eh ben n'hésitez pas. On reparlera de Lord of Waterdeep un peu plus tard. D'autres news
oui, bien sûr.
Écran.
Oui, notamment Fantasy Flight Games, ils annoncent un Battle Lore Command sur iPad. Donc c'est l'adaptation de pas Battle mal. Lore qui vient de juste sortir dans sa V2, mais sur iPad, donc Android a priori pas pour l'instant. Enfin, ça devrait arriver quand même, je pense. Ils l'ont pas, hein, je crois pas qu'ils l'aient dit, mais si on se réfère à comment le signe des anciens, Elder Sign, ils l'ont bien porté sur les deux plateformes. Ils annoncent quand même un prix qui sera à 10$. Mais on pourra faire toute une campagne en solo. Battle Lore, c'est un système Command & Colors de Richard Borg. Alors peut-être que pour la V2 ils l'ont un peu changé, mais en gros donc c'est un jeu où on joue des cartes pour décider comment on va bouger ses troupes sur les combats, et Battle Lore c'est combat médiéval avec un peu de magie dedans.
Les Command & Colors, la couleur, on a les bleus qui sont en vert, alors c'est bizarre de dire ça, la troupaille qui est en verte, les troupes qui sont un peu plus entraîné qui est en bleu et les vétérans en rouge. C'est pour ça que ça s'appelle Command & Colors.
Ah oui, effectivement.
Dans Battle Lore.
Pour les couleurs. Mmh. Oui. Et après, en fait, tous les dégâts sont résolus avec, en lançant les dés, ils disent la couleur.
C'est ça.
Donc je sais plus. Oui, si, il sera aussi sur. Effectivement, il va être aussi sur Android. Ils disent dernier trimestre 2014. Donc en gros, ça va être début 2015. Et les images sur le site de FFG sont très belles. Et on peut leur faire confiance puisque Elder Sign, c'était un très bon portage. Une adaptation, du coup, vous pouvez dire, justement.
Et Seven Wonders.
Et ben, en fait, après, GenCon oblige, l'équipe de Board Game Geek, ils ont récemment, ils ont pu voir à la GenCon les différents jeux qui vont arriver, notamment Seven Wonders et Battle Lore et le Battle Lore
Command,
voilà. Et Seven Wonders ont dit que c'est pareil, le portage est très bon. De toute façon, RepoProd, globalement, les différents jeux qu'ils ont sortis sur iOS sont bien faits.
Ouais,
et là, par contre, c'est que iOS, hein, je crois. Moi, j'attends avec impatience la version de Seven Wonders sur iPad.
Enfin, ils font les choses bien. On n'était pas contents qu'ils sortent Ghost Tourism seulement avec deux joueurs.
C'était leur premier, ouais. C'était. Mais après, ils ont changé, ils ont...
Ouais.
Mais ça, c'est l'apprentissage. C'est pas.
Ouais, non, justement.
On n'était pas contents, on l'a dit, et puis
voilà. Ils ont changé.
Ils ont changé.
Pokémon, attrape-les toutes.
Pokémon.
Attrapez-les tous. Une approche sur iPad.
Alors, on connaît Nintendo quand même qui reste très accroché.
Ils sont pas morts encore ?
Non, bah justement, ils sont en train de mourir doucement. Et du coup, tiens, t'es arrivé à la chatroom avec ça. Et du coup, ils ont mis du temps avant de se décider, mais ça y est, il semblerait qu'ils se préparent à sortir un Pokémon version jouable online. En fait, il existe déjà Pokémon online, mais ça attire peu de monde.
Mais tu veux dire
sur iPad.
Tu veux dire que les enfants qui jouent à Pokémon, ils vont être obligés de connaître les règles ?
Bah, ceux qui jouent sur Pokémon Online sur le site, oui, bien sûr, ils
ouais,
le font
mais
déjà.
Ça risque de démocratiser. C'est comme Hearthstone, c'est beaucoup plus simple.
Eh ben ouais, moi j'y vois le succès de Hearthstone dans ça, mais dans cette orientation-là. Hearthstone, c'est, je sais pas combien Blizzard a pu gagner avec ça, mais je pense que c'est une belle success story. Peut-être que pour Nintendo, c'est effectivement une première piste. Alors attention, hein, c'est pour l'instant, on n'en est qu'à du Pokémon carte à collectionner. On n'en est pas dans les Pokémon version aventure qui existent sur les DS. Mais à mon avis, ce premier pas, il est justement pour tâter le terrain. Et si c'est bien fait, pourquoi pas, moi j'aimerais bien. Surtout que c'est basique, c'est simple comme jeu, c'est un peu comme Hearthstone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction pendant le tour de l'adversaire, contrairement à Magic, donc ce qui fluidifie le jeu,
oui.
Ce sera, voilà. Donc bon, par contre, je ne sais pas pour quand c'est... Hein. Dans les news, on dit bientôt disponible. Bientôt, je pense que c'est encore sous un an, parce qu'à mon avis, ils n'en sont qu'au début. Ou alors, c'est Nintendo, ils ont bien caché leur jeu.
Et puis, pour finir cette partie écran, puis cette partie actu, je pense, ça fait à peu près une heure qu'on est en train d'en parler. Je vais, moi, vous parler de Star Realms. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très récent. Ça a été un Kickstarter. Ils ont gagné 50 000 euros. Ils ont fait une version en carton. Et puis ils ont fait aussi une version iPad. Moi je l'ai essayé, donc c'est quelqu'un que excuse-moi, toi qui m'as conseillé d'essayer ce jeu. Je ne sais plus qui m'a conseillé, mais je l'ai fait. Star Realms, ça ressemble un peu à
Ascension.
Avec un bémol, c'est que donc ça se passe dans l'espace avec des peuples différents. Qui dit peuple dit couleur. Donc on va avoir des couleurs qui vont pouvoir s'enchaîner, et un peu comme pour Ascension, quand tu poses un verre et que tu reposes un vert, t'as un effet supplémentaire. Là, si tu poses un jaune et que tu reposes un jaune, tu fais toujours le premier effet, mais le deuxième effet de la carte. Et l'idée, c'est... Le but du jeu, c'est de détruire son adversaire qui a un certain nombre de points de vie, je crois 35.
Oui, il faut le mettre à zéro, là, contrairement à Ascension.
Il faut le mettre à zéro, et sachant que tu peux te protéger avec des bases et qu'il y a plein d'interactions. C'est très bien fait, j'étais surpris d'être vraiment pris par ça. Ça coûte 4,49€, pardon, 4,49€. Tu as juste une version d'évaluation où tu vas avoir une IA en facile, et puis une campagne, je crois qu'il y a 5 missions plus un boss, où tu as 9 campagnes différentes, plus...
En gros, tu facilites, ouais.
Alors, la version gratuite, elle est limitée, si tu veux.
Ouais, mais c'est bien, ce qu'ils font pour Magic, etc.
La version campagne, t'as vraiment un plus par rapport à ce que tu peux avoir sur Ascension. C'est-à-dire, tu vas avoir le Pass and Play, tu vas avoir la version, le jeu contre l'IA, et tu vas avoir, par exemple, une mission où avec des adversaires qui sont vraiment très différents les uns des autres, et avec des effets sur des cartes qui seront différents d'une mission à l'autre. Donc c'est un plus, à mon avis, par rapport à Ascension, où tu fais toujours les mêmes, entre guillemets, parties où tu vas essayer de faire le plus de points possible, où là, les conditions vont changer, et où il va falloir jouer autrement pour pouvoir défaire ton adversaire. Et ça qui est intéressant. Ton adversaire, il joue différemment, et toi, tu as besoin de jouer différemment par rapport à ton adversaire, ce qui fait que la martingale que tu as mis en place et qui normalement réussit toujours, elle va pas réussir.
Ne bouge pas, je vais aller voir ça sur le store.
Un peu comme pour Hearthstone. Hearthstone, ils ont lancé les Zeldes du palais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Naxxramas.
Ouais.
C'est pas mal, et ça rejoint un petit peu ce principe où tu vas avoir donc il y en a 7, c'est 700 gold pour par aile, donc c'est déjà beaucoup pour moi qui joue plus beaucoup, c'est vraiment beaucoup 700 gold. Et puis tu vas affronter des héros, il va falloir les défaire de vraiment d'une façon différente. Il y en a 3 par aile, je crois. Et il y a aussi un truc rigolo, c'est que ils vont te donner des cartes. C'est-à-dire ils vont te faire jouer avec des préconstruits de deux héros différents pour lutter contre les méchants de cette aile là. Ça c'est bien fait. Tu gagnes des cartes, et puis il y avait aussi un autre truc, c'est que t'as deux niveaux, tu peux les battre soit en facile, soit en difficile. Donc ça c'est Hearthstone. Ça rejoint un petit peu Space Realms,
Star Realms
dans le cette façon de jouer contre le jeu, qui n'est pas juste une IA standard et qui change avec les extensions. Donc c'est pour moi une très belle découverte, Star Realms sur iOS à 4,49€.
Et pendant que donc Star Realms, on disait que c'est un rapport avec Ascension, c'est le même auteur.
Oui.
Et
le même illustrateur. Eh ben non.
Ah non, non, là ils ont changé, là ils ont pris un. Non. Ils ont arrêté les blagues débiles. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Ascension est sorti sur Android là, juste pour la Gen Con, oui. Et pendant l'été. L'air de rien. Je connais plein de gens qui sont contents, notamment dans la chatroom. Il y a aussi des joueurs qui plébiscitent Star Realms.
Ouais.
Et du coup, je l'ai en train de se télécharger. Et donc, Ascension, non seulement il sort sur Android, mais en plus, Playdeck, je rappelle, normalement, n'avait plus le contrat pour continuer Ascension sur iOS à la fin de l'année 2014. Il semblerait qu'ils aient trouvé un compromis entre Stoneblade et Playdeck, et que donc, le Ascension actuel sur iOS continuera plus tard en 2015.
Pas mal, j'aime beaucoup Ascension, c'est le jeu auquel je joue le plus dans les transports en commun.
J'ai trop joué, on va dire comme ça. J'ai beaucoup joué, effectivement, et c'est vrai que maintenant, du coup, je pense plus à le lancer. Il faudrait, tiens, pourquoi pas. Surtout qu'ils suivent en même temps les extensions qui sortent en version... Il y a un léger décalage, mais globalement...
Version papier.
Enfin, version carte est bien suivie sur écran.
Et tu voulais parler des événements.
Tant qu'à faire.
On en a loupé un. Je suis désolé, c'est Bibou Coyote qui m'en a parlé juste avant notre enregistrement en juillet. C'est à la fin juin, début juillet, juste avant que je parte en vacances. Et j'ai complètement loupé le truc. Il y a un petit salon qui se passe dans le Vercors, un petit événement qui se passe dans le Vercors. Enfin, absolument qu'on en parle l'année prochaine. Désolé d'avoir mangé la consigne et de ne pas en avoir parlé cette année. D'autres événements, il y en a plein partout, tout le temps maintenant. Il y a vraiment un dynamisme autour des événements ludiques importants en France. Le Festival des Jeux de Cestas en Gironde, dans le 33.
Tu me lances comme ça?
Bah oui.
Alors que je suis en train de préparer Ludimania. Ok. voilà.
Bah, si tu veux, je peux continuer à lire, mais ça va faire un peu...
Bah oui. En fait,
donc, c'est les graves ludiques, parce que les graves, c'est le terrain sur lequel pousse un certain... Le terroir dans lequel pousse un certain cépage.
Petite culture ludique. En fait, j'ai le communiqué de près, j'ai les infos, mais attends, c'est dans le temps.
Mais les graves ludiques, donc, c'est 4 associations dédiées en jeux de société implantées sur toute la cube, dans la cube. Donc la banlieue sud et ouest de Bordeaux, la communauté urbaine de Bordeaux. Et ils organisent un événement qui se déroulera sur 3 jours, le 26, 28 et du 26, 27 et 28 septembre 2014. Donc vraiment, le podcast sera en ligne.
C'est pour ça qu'on peut en parler.
Oui, Yello est le partenaire de ce festival. Mais je crois qu'ils sont partenaires de tous les festivals.
Ils sont quasiment tout le temps maintenant. Voilà. On dit les festivals.
Oui, les corbeaux aussi. Voilà. Et puis,
ils prévoient un tournoi Lièvre et la Tortue, par exemple, le vendredi, au hasard. Ils auront Benoît Forget de Purple Brain, forcément. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est dans la logique Yellow. Il y a du King of Tokyo et King of New York le samedi.
J'espère qu'il y aura du Nuri 15 aussi.
Il y a du. Non, bien sûr que non. Il n'y en a pas. Ils en auront, je pense, le reste du temps, mais ils n'ont pas prévu d'événement spécial. Il y a un tournoi de Molku le dimanche. On leur souhaite qu'il fasse beau. Un tournoi de 8 minutes pour un empire. Il y a aussi des espaces prototypes, des espaces pour les joueurs, pour les enfants. Il y en a pour tout le monde. Et tout ça, c'est gratuit, si je ne me trompe pas.
Donc, ça, c'est bien.
Je vous mettrai le lien. Voilà, c'est à la halle du centre culturel de Cestas. Ça, tu l'as dit. Et puis, autre événement. Donc, il y a Octogone à Lyon, début octobre.
Ouais.
C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire
C'est la cinquième année. C'est une manifestation qui regroupe à la fois du jeu de société, du jeu de rôle, beaucoup de jeux de rôle. Si vous avez envie de vous initier au jeu de rôle, c'est ce qu'on a fait l'année dernière avec des enfants. Ça s'est super bien passé. Si vous avez envie de mettre le pied là-dedans, il y a plein de tables. Vous pouvez vous inscrire, vous préinscrire, je pense, avant le week-end. Du jeu de figurines, du jeu de cartes à collectionner un peu, Mais ce qui prend vraiment le pas sur tout le salon, c'est le jeu société avec beaucoup beaucoup de tables. Évitez le samedi après-midi parce que c'est impossible de vous asseoir. Si vous avez envie, vous pouvez passer la nuit là-bas. Une buvette, une sécurité, c'est dans un espace qui est dédié et qui est, je pense, le plus adapté à une convention de jeu sur Lyon, qui n'est pas trop grand, pas trop petit, avec un prix qui est un petit peu élevé, mais ça correspond aussi au lieu qui accueille la convention, avec plein de bénévoles, avec plein de gens super à rencontrer, surtout en matière de jeux de rôle. Et puis ça se passe donc le...
Les 3, 4 et 5 octobre.
3, 4 et 5 octobre prochain.
Voilà, à Lyon.
Avec notamment la boutique Trollune qui est un peu le... qui tire tout ça, mais pas que. Il est archi chouette. Je pense qu'il y aura aussi des cartes. J'ai l'impression de dire une bêtise. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y aura au moins archi chouette.
Ouais.
L'association, moi je m'en fous, je triche. Et puis bien d'autres, on vous mettra un lien sur le site pour envoyer vers tout ça. Et nous y serons. On sait pas quand, on sait pas comment, on sait pas...
voilà, mais c'est comme ça. C'est dit, c'est fait.
Voilà.
Ok, et on peut précommander, normalement, on peut pré-réserver les billets, mais j'ai pas encore l'info sur le site, donc je pense que ça va arriver, c'est parce qu'on est encore fin août. Et puis il y a aussi, donc, pour finir dans les événements, il va y avoir le salon Ludimania à Dijon.
Il paraît que c'est super bien.
Ouais, j'étais l'année dernière...
Ah, c'était super bien alors.
Voilà, c'était super bien. C'est un petit salon, c'est sur deux jours, donc ce sera les 13 et 14 septembre à l'espace Taboureau des Accords à Saint-Apollinaire qui est un peu à côté de Dijon.
Ouh, bah je sais pas si.
Ouais, ce sera bon, ce sera en ligne. Ouais. C'est des news, on peut. C'est gratuit, on peut. Il y a plein de. Il y a des jeux de plein air. S'il fait beau, l'année dernière il pleuvait. Il y a plein de. Il y a plein de jeux qui sont en libre service en fait. Il suffit de se servir et de s'installer sur une table et de jouer. Il y a de quoi faire, il y a plein d'espace. La salle est grande, il y a des salles en sous-sol aussi pour jouer. Vraiment, ça ne désemplit pas. J'ai trouvé ça très, très sympa l'année dernière. Donc si vous êtes dans la région dijonnaise, eh ben, allez-y. Franchement, c'est, en plus ça finit à pas d'heure la nuit.
Ça finit, alors qu'Octogone, ça finit pas.
Non mais là, je crois pas que ça finisse en fait. Ah. Moi, je crois que j'étais rentré à 2h du mat et je m'étais couché.
Ah, c'est toi qui avais fini.
Oui, parce que je savais le lendemain, il fallait que je me lève genre à 7h ou 6h, oh j'ai mon train. Je suis comme ça, moi.
Une petite précision sur Octogone, ça se passe à l'espace Tête d'Or à Lyon, enfin c'est Villeurbanne, mais voilà. Donc des événements, des beaux événements avant Essen, et effectivement c'est une belle rentrée qui s'annonce.
Voilà, on peut conclure l'épisode maintenant, Olivier, si tu veux.
Si tu veux, oui, donc la première partie avec beaucoup de choses. Alors, c'est pas, encore une fois, c'est un épisode charnière, ça fait à peu près une heure et demie. Le prochain sera plus court, on va éviter de faire un quart d'heure, 20 minutes d'introduction comme dans celui-là. Mais encore une fois, je pense que c'était important de vous rappeler que Proxyjeux, c'est un podcast, mais c'est aussi un site, qu'il y a des gens qui prennent la peine d'écrire sur le site, pas moi. Donc là, je remercie tous ceux qui ont plus de temps et de facilité pour mettre des commentaires. Et merci à Jérémy de relancer, parce que je le faisais un peu avant et maintenant j'ai plus du tout le temps de le faire. Donc
de quoi, les billets?
Mais non, moi je vais boire des couches à Robin des Jeux, donc je peux pas.
Pendant que moi je trime à faire les billets. Ouais, je fais les billets. J'essaie toujours quand même de mettre les illustrations parce que c'est plus joli, de mettre les liens parce que c'est mieux. Mais des fois, j'exclus pas que un jour, je balance pas juste les liens parce que ça me permettra de gagner du temps quand même, parce que c'est plusieurs heures de travail.
Ouais, une petite précision sur Robin des Jeux, c'est 37 boulevard de Charonne à Paris. Et je crois que c'est pas Charonne, le métro, ça doit être autre chose, c'est à côté de Nation. Voilà, donc la première partie, encore une face A. Je pense qu'on va mettre suite à ça l'épisode qu'on aura enregistré avec notre sponsor Philibert, la Philly Team. Et puis un petit peu plus tard, on parlera de jeux de société sur table et sur écran. On vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, on va aussi mettre notre deuxième flux, enfin, c'est un autre podcast. On annoncera le nom très bientôt.
Quand ça va être.
À bientôt. Et en attendant, je vais bien.